Malheureusement, M. Ignatieff et ses partenaires de la coalition, le NPD et le Bloc, ont bien fait comprendre qu'ils avaient déjà décidé d'aller en élection. Les quatrièmes élections au Canada en 7 ans, des élections dont les Canadiens et Canadiennes ne voulaient clairement pas.
Aujourd'hui, à connaître la suite, on s'entretient avec le président du Conseil du patronat du Québec, ainsi qu'avec Marc-Olivier Fortin du journal étudiant The Prince Arthur Herald. Tout ça dans 2 minutes, à connaître la suite. On se retrouve dans pas grand temps. Bonsoir tout le monde, bienvenue parmi nous à cette émission de Connaître la suite. Après une petite pause d'une semaine, bienvenue à toi Danny, ça va bien?
Ben oui toi.
Oui, en pleine forme. Mm-hmm. Grosse journée aujourd'hui sur la politique fédérale. On va en parler un peu plus tard durant l'émission. Mm-hmm. Ce soir, on vous rappelle, pour nous rejoindre, il y a 2 façons de le faire. Soit que vous nous envoyez un courriel à info@connaitrelasuite.com ou sinon, il y a le Twitter, le Connaître Suite, tout ça en un mot. Et c'est la façon de nous rejoindre de façon la plus efficace. Beaucoup de sujets ce soir encore à l'émission. On vous a concocté encore là des invités de marque qui vont venir nous parler de toutes sortes de choses. Et justement, cette semaine, le dépôt du budget fédéral a retenu l'attention, mais finalement, ce ne fut pas pour son contenu, mais davantage pour ses impacts sur le gouvernement en place. Alors, pour en parler du budget justement qui a été déposé, on a le plaisir de s'entretenir avec le président du Conseil du patronat du Québec, et j'ai nommé M. Yves Thomas Dorval. Bonjour M. Dorval.
Bonsoir.
Bonsoir, oui, effectivement. Est-ce que c'était un si mauvais budget que ça pour qu'on, justement, on assiste à la chute du gouvernement?
Non, pas du tout. Et de fait, la chute du gouvernement ne s'est pas faite sur le budget, mais sur une motion de blâme, une motion d'outrage au Parlement. Alors, on s'est même pas rendu à la discussion sur le budget, finalement.
Donc, c'est ça, on a coupé l'herbe sur le pied.
Exact. En fait... Le budget, c'est important quand même d'en parler parce que à quelque part, ça va être au centre de discussion autour de la période électorale. Et le Parti conservateur, lui, a dit que si il était réélu, son budget allait rester tel quel. Donc, c'est quand même important de savoir ce qu'il y a dans le budget parce que c'est un sujet, je dirais, majeur dans le cadre de l'élection qui s'en vient. Et c'est aussi un sujet qui risque de toute façon de réapparaître tout de suite après l'élection si jamais le gouvernement était reconduit après l'élection.
Et pour bien expliquer à notre auditoire, vous étiez présent lors du dépôt, donc vous étiez dans le huis clos.
Exact.
Et vous avez comme ça pris connaissance évidemment de toutes les mesures-là. Et d'ailleurs, la position du Conseil du patronat de Québec, du Québec était assez claire. Donc, on parlait d'un budget responsable qui maintient le cap. Donc, un budget qui, somme toute, est un budget qui rencontre vos attentes?
Bien, en fait, oui, effectivement. Ce que le budget fait, le plus important qu'il fait, c'est que, d'abord, il fait rapport de ce qui a été fait, bien sûr, et il faut savoir que le gouvernement a, je dirais, dépassé ses cibles. Hein, il a économisé presque 9 milliards de dollars de plus que prévu par rapport au dernier budget. Et ça s'est fait sans augmentation de taxes, d'impôts, de tarifs et sans réduction de transferts aux particuliers, au gouvernement, aux entreprises. Donc, ce qui est intéressant dans le budget, c'est que le budget maintient le cap pour arriver à un budget équilibré, là, sans déficit à compter de 2015-2016. Donc, ce que le gouvernement dit, c'est un gouvernement qui, finalement, avait déjà mentionné son intention, qui la poursuit, qui reste sur la même traque. Le budget dit donc qu'ils vont atteindre leur objectif et les prévisions de revenus, de croissance économique qu'ils font sont assez conservatrices, pour sans jeu de mots. Et donc, il est vraisemblable qu'effectivement, les hypothèses de base vont être rencontrées. Et même quand on analyse bien le budget, ils ont une très bonne marge de manœuvre. Ils se sont réservés plusieurs milliards de dollars. Et évidemment, ça va être probablement là où, pendant les élections, on va entendre parler de promesses. Et il y a quand même une certaine marge de manœuvre pour faire ces promesses-là. Et ça, tous les partis politiques qui seront à l'élection pourront tabler sur cette provision, sur cette marge de manœuvre, pour eux autres aussi y aller de leurs grandes promesses.
Pensez-vous que ça fait partie justement de leur stratégie d'obtenir ce niveau d'information-là avant de déclencher justement des élections? Parce que j'imagine de savoir que le gouvernement a des finances en bonne santé, justement, il y a une marge de manœuvre. Est-ce que ça peut faire partie d'une stratégie pour déclencher des élections? Parce que si le budget aurait été désastreux à ce niveau-là, peut-être que les partis politiques n'auraient pas voulu se lancer dans l'aventure.
C'est une possibilité. Moi, je pense que c'est davantage et avant tout un calcul politique. C'est que il y avait sur la scène politique des éléments en place, que ce soit un rapport du comité des communes qui disait que finalement le gouvernement avait fait un outrage au tribunal, pas au tribunal, mais au Parlement, et il y avait des motions de blâme qui s'en venaient. Alors, je dirais que tout l'attirail nécessaire pour qu'un gouvernement minoritaire soit défait était en place, peu importe qu'il y ait un budget ou non.
Et c'était palpable, ça, lors du dépôt du budget?
Oui, parce que les motions avaient déjà été, annoncées hein, par les partis politiques de l'opposition, par les partis d'opposition. Le gouvernement, quant à lui, ce qu'il a essayé de faire, je pense, à travers ce budget-là, c'est un budget quand même qui est un peu électoraliste également, parce que non seulement il se réservait sa politique traditionnelle, c'est-à-dire on réduit les impôts. Dans ce cas-ci, c'était déjà prévu, annoncé et déjà adopté dans le dernier budget, des baisses d'impôts pour les entreprises pour permettre aux entreprises de faire davantage d'investissements puis refartir l'économie. Ça, c'était déjà annoncé depuis le budget de l'année dernière. Alors aujourd'hui, on a un nouveau budget qui remettait pas ça en question et qui, en plus, puisque le gouvernement s'était donné une petite marge de manœuvre, ben, le gouvernement a annoncé aussi une série de mesures qui répondaient à des besoins de certaines des clientèles, que ce soit des clientèles, bien sûr, d'entreprises, parce qu'il y avait une trentaine de mesures pour aider les entreprises à se développer, mais il y avait toutes sortes de mesures également pour différentes clientèles, particulièrement les plus vulnérables, les personnes âgées. On parle d'aidants naturels, on parle de reconduire aussi des politiques qui ont été bien appréciées, comme le travail partagé pour les gens qui arrivent près de la retraite puis qui ont la possibilité de continuer à travailler à ce moment-là, et ainsi de suite. Donc, il y avait même pour les étudiants des annonces intéressantes au niveau du financement, reconduction, augmentation de bourses et pour des régions éloignées, des mesures pour inciter les infirmières, les médecins à aller travailler en région éloignée. Donc, il y avait toute une panoplie de petites mesures. C'est un peu du saupoudrage, par contre, là, mais ça rencontrait quand même des demandes qui avaient été faites. Rien dans ces promesses-là ou dans ces parties-là du budget qui rencontrait pas des demandes qui avaient été faites. Donc, je pense que c'est un budget qui était assez électoraliste. Et maintenant, comme je vous dis, c'est pas ça qui a précipité, je pense, la défaite du gouvernement. C'était davantage, je dirais, des décisions politiques des différents partis d'opposition. Et c'est tout à fait légitime parce qu'on est en face d'un gouvernement minoritaire. Et les partis d'opposition étaient tout à fait légitimes de vouloir le faire. Maintenant, est-ce que la population, elle, pendant les élections, vont être aimer ça ou apprécier ça? Est-ce qu'ils vont aimer ce qu'il y avait dans le budget? Est-ce qu'ils vont aimer d'être plongés pour une quatrième fois en élection sur 7 ans? Ben là, ce sera aux électeurs à décider. Et quant à ça, nous, au Conseil du patronat, c'est sûr que nous adopterons une ligne non partisane. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est que les partis politiques, quels qu'ils soient, puissent présenter des plateformes de façon très claire et puissent aussi identifier de façon très claire l'impact que ça va avoir sur les finances publiques. Parce que même si ça allait mieux, parce que l'économie va mieux, il reste qu'on est toujours en période de déficit et qu'il faut revenir à l'équilibre le plus vite possible parce qu'on va continuer d'augmenter la dette.
Mais justement, par rapport à cette dette-là, puis du fait qu'on va passer une bonne partie des prochaines semaines, je pense, on va être pris dans un cercle vicieux où il n'y aura pas de gouvernement en place. Donc, pensez-vous que c'est risqué à ce moment-ci, sachant qu'il y a une reprise économique, puis avec ce qui vient d'arriver au Japon, est-ce que vous pensez, même pour les entreprises au Canada, est-ce que ça peut mettre à risque quand même là les plans de relance, le fait qu'on s'en va en élection et là, les politiciens vont passer leur temps davantage à parcourir le Québec ou le Canada en autobus versus, là, justement, siéger en chambre et prendre des décisions peut-être importantes?
C'est une bonne question. Je pense que pour les entreprises préfèrent toujours la prévisibilité, c'est-à-dire savoir, prévoir ce qui s'en vient, parce qu'on ne prend pas des décisions sur des investissements si on n'est pas certain de l'environnement dans lequel on va prendre ces décisions-là. Alors, c'est clair qu'une période d'incertitude, c'est pas bon pour l'investissement, pour les entreprises. Et c'est clair aussi que les gens vont attendre de voir quelles vont être les politiques qui vont être mises en place advenant tel ou tel parti qui prendrait le pouvoir parce qu'ils veulent pas, évidemment, commencer à investir puis s'apercevoir que finalement ça fonctionne plus. Alors ça, c'est important. Ce que vous dites, il va y avoir un ralentissement. Le bon côté des choses, c'est qu'il y a eu des changements au niveau de la loi sur les élections au niveau fédéral. Et aujourd'hui, on assiste quand même à une période assez courte.
Oui, oui, tout à fait d'accord.
Là, si on se lance en élection à la fin de mars, bien, il faut savoir que l'élection se ferait au plus tard au début mai et que donc, ça reste une période relativement courte, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, par contre, c'est pendant cette période-là, c'est clair que ça va ralentir au niveau non seulement des investissements, c'est qu'il y a des décisions gouvernementales aussi qui vont être ralenties. Et évidemment, tout le bagage de ce qui était sur le plan législatif devant le Parlement, qui n'a pas été adopté, évidemment, tombe aujourd'hui. Donc, si les gens escomptaient certaines décisions réglementaires ou législatives qui s'en venaient pour pour prendre des décisions, bien, c'est clair que là, tout est remis en question pour une certaine période de temps. Donc, au-delà de l'élection, il reste que même après, s'il y a une formation d'un gouvernement, que ce soit celui qui était là ou un nouveau gouvernement d'un autre parti politique, il reste que ça va quand même prendre encore aussi un peu de temps après pour repartir la machine. Et donc, ça, c'est pas très bon pour l'économie, c'est très clair. Maintenant, encore une fois, il y a des motifs qui ont été invoqués par les partis d'opposition et ils sont légitimes de vouloir procéder ainsi. C'est pour ça que nous, on fait très attention pour pas se prononcer sur le plan politique, mais au plan économique, c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose non plus de vivre toujours dans ce genre d'incertitude-là. À un moment donné, il faut falloir régler la question.
Oui, tout à fait.
Et pour pouvoir savoir dans quelle orientation on s'en va tous ensemble. Mais il y a d'autres facteurs qui sont importants parce que même si on a parlé du budget au niveau de certaines mesures qui touchent soit les individus ou soit les entreprises, il reste quand même que dans le budget, il n'y avait pas non plus des réponses à des questions particulière du Québec, que ce soit une entente pour les compensations pour l'administration de la TPS-TVQ, on parle quand même de milliards de dollars.
Mais comment on explique justement qu'on n'a pas adressé ces points-là, sachant très bien qu'on allait aller potentiellement en élection, parce que c'est un point litigieux qu'on a avec le Québec. Même si on prend l'exemple, parce que dans votre communiqué, vous parliez aussi du pont Champlain.
Exact.
On sent que c'est un dossier assez chaud actuellement. Comment vous expliquez le fait qu'un gouvernement n'adresse pas ces points-là, sachant très bien que une partie de l'électorat va être influencée directement par ces mesures-là?
Ben, je pense qu'il est clair que là-dedans, il y a des intérêts politiques. Hein. Si on se lance en campagne électorale, il y a probablement des plans qu'ils ont dans leur carton. Et ça peut faire des belles promesses électorales, okay. Ça peut faire des engagements. Alors ça, d'après moi, ça fait partie du portrait politique. Encore là, il faut faire attention que l'économie et la politique, c'est pas nécessairement la même chose. La rationnelle n'est pas la même. Hein. Alors, pour ce qui est du pont Champlain, je vous dirais probablement que le gouvernement vient quand même juste de recevoir des rapports d'ingénieurs. C'est quand même assez récent, là. Ça m'aurait étonné que n'importe quel gouvernement aurait pris une décision aussi rapide, là. Surtout qu'on parle là, d'investissements encore là qui touchent dans les milliards de dollars. Mais par contre, je suis certain que pendant la campagne électorale, les partis, quels qu'ils soient, devront se prononcer là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse, au-delà de ça, c'est, vous savez, on en a vu plusieurs des élections. C'est comme l'autoroute 30, là, il y en a eu 5, 6 fois des promesses sur des élections là-dessus. Il y a beaucoup de projets qu'on pense au CHUM qui ont été annoncés plusieurs fois, puis c'est toujours, ça a toujours été reporté. Alors, quant à nous, c'est pas une promesse qui est importante, c'est un engagement sur une date de début des travaux. Hein, c'est pour ça que ce qui est important aujourd'hui, c'est pas de savoir s'il va en avoir un nouveau pont. Moi, je vous garantis qu'il y en aura un nouveau pont. Ils n'ont pas le choix. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir quand peut-on l'avoir, un pont, le plus rapidement possible, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse développer un concept puis obtenir un consensus puis des autorisations des différentes parties prenantes le plus vite possible, en tenant compte, évidemment, de l'impact que ça a de chaque côté. Parce que même si on parle d'un pont, ça prend des dessertes, ça prend ça prend des autoroutes, ça arrive sud pour se rendre au pont, ils sont pas là actuellement, et ça prend aussi de l'autre côté d'autres planifications. Vous savez déjà qu'il y avait une planification pour l'autoroute Bonaventure, il y en a une autre pour l'échangeur des carrés, donc tout ça doit rentrer en ligne de compte. Moi, ce que je dis là-dessus, dans la période électorale, je pense que ce qui est important, c'est pas tellement de faire promettre un pont, je suis certain qu'il va en avoir un partout et parti, mais c'est d'avoir un pont le plus rapidement possible en chantier et non pas des promesses qui vont perdurer pendant 2-3 autres élections.
Et j'ai une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que le Conseil du patronat du Québec est parfois consulté justement dans ces processus-là de dépôt budgétaire? Est-ce qu'on va vers vous des fois pour avoir des indicateurs? Parce que vous représentez quand même de nombreuses personnes et surtout que vous êtes représentant du patronat au Québec. Est-ce que ça arrive que vous êtes consulté?
En fait, non seulement ça arrive, c'est formel. Chaque année, que ce soit au provincial ou au fédéral, il y a des rencontres préparatoires au budget et nous rencontrons les ministres des Finances au fédéral et au provincial et on fait part de nos attentes, de même que l'ensemble des groupes, je dirais, qui représentent les différents groupes de la société. C'est la même chose du côté des syndicats, c'est la même chose du côté des groupes socio-économiques. Donc, il y a des consultations formelles qui sont faites par les ministres des Finances. Et même au fédéral, il y a un outil de plus, c'est qu'avant la période budgétaire, il y a aussi une consultation formelle du comité parlementaire sur le budget. C'est un comité où siègent les différents partis politiques au sein du Parlement. Et il y a des consultations formelles. Donc, à la fois, il y a des consultations de l'ensemble des partis politiques dans des formats très spécifiques lors d'audiences publiques en commission parlementaire, et à la fois, il y a des rencontres avec les différents ministres des Finances et les premiers ministres pour que les différents groupes fassent état de leurs questions. Et le budget, dans la majorité des cas, c'est une espèce d'arbitrage qui essaie de répondre aux demandes avec des objectifs de saine gestion des finances publiques, avec des objectifs aussi de fiscalité concurrentielle. Alors, je vous dirais que l'année dernière, par exemple, lorsque nous avions passé les deux budgets, on avait quand même donné des notes assez positives parce que les budgets rencontraient la plupart des demandes du Conseil du patronat. Et cette année, je vous dirais que c'est en grande partie, encore là, il y a beaucoup de demandes qui ont été répondues. Maintenant, il reste quand même qu'il y a toujours des préoccupations. C'est pas facile pour un gouvernement de faire l'arbitrage, hein, parce qu'il y a des groupes d'intérêt de différents côtés, différentes idéologies. Et je pense que le budget qu'on avait à tout le monde au fédéral cette année, c'était pas un budget avec une grande ingéniosité, c'était pas un budget avec des projets spectaculaires, ce qui nous peut-être qui qui apaisait un peu notre enthousiasme et qu'on trouvait qu'il manquait quand même là quelque chose de porteur, une initiative porteuse, structurante pour l'économie. Mais au-delà de ça, c'est un budget qui était prévisible et dans ce sens-là, le gouvernement était cohérent avec ses précédents budgets. C'est-à-dire qu'il a présenté des propositions budgétaires qui étaient tout à fait dans le cadre de ce qu'il avait déjà dit qu'il allait faire. Donc, il c'était, comme on dit, aller dans la continuité. Il gardait le cap.
Puis, plus précisément, c'était quoi vos demandes que vous faisiez pour ce budget ici?
Bon, pour le budget ici, c'est sûr que nous, on a cinq grandes priorités. La première dans ces priorités-là, c'est de s'assurer qu'on ait une saine gestion des finances publiques. Donc, revenir le plus rapidement possible à l'équilibre budgétaire parce que la dette qui s'accumule va restreindre la capacité du pays ou des provinces de pouvoir faire des actions porteuses. Donc, pour nous autres, c'est important d'arrêter l'augmentation constante de la dette. Vous savez, au Québec, si on calcule la dette cumulée du Québec avec le fédéral, ben, le au Québec, le citoyen québécois est aussi endetté que les pays qui font face aux plus grandes crises d'endettement actuellement. La seule différence qu'il y a au Québec et au Canada, c'est qu'il y a un plan avec une date précise de retour à l'équilibre budgétaire et que le plan apparaît crédible par les grandes agences de notation qui décident finalement du taux d'intérêt que vont payer les différents pays sur leurs dettes. Alors, la seule chose qui sauve le Québec et le Canada actuellement, c'est que le plan de retour à l'équilibre est précis dans le temps, avec un échéancier assez court et avec des mesures qui sont jugées comme étant crédibles. Alors, ça, c'est important parce que ça a un impact direct sur l'autre aspect des finances publiques, qui est la fiscalité. Quand le gouvernement a trop de dettes, puis il y a trop de déficit, il est obligé de lever plus d'impôts, plus de taxes. Et là, à ce moment-là, ça vient gréver le développement économique. Parce que si les citoyens paient davantage de taxes et d'impôts, ça veut dire moins d'argent qui va rouler dans l'économie. C'est de l'argent qui s'en va uniquement pour rembourser des dettes d'épicerie. Fait qu'il n'y a pas d'argent neuf qui fait rouler l'économie. La même chose du côté des entreprises. Plus l'entreprise va être imposée, moins elle va avoir de l'argent disponible pour faire des nouveaux investissements, créer de l'emploi, puis améliorer sa productivité, puis faire de sa commercialisation pour croître ses affaires. Alors ça, c'est bien important, c'est notre première priorité. Deuxième priorité, c'est plus sur la main-d'œuvre. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe avec le déclin démographique, avec les changements technologiques, les employeurs sont aux prises avec un besoin de main-d'œuvre qualifiée en fonction des différentes tâches qui sont là. Puis aujourd'hui, quand on regarde au Canada, un des plus gros problèmes, l'endroit où on tire le plus de la patte, c'est sur la productivité. Puis la productivité, ça tient en compte, entre autres, de la formation des travailleurs. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est davantage d'initiatives qui visent la formation des travailleurs, soit la formation continue pour ceux qui sont déjà en emploi, soit la formation pour les nouveaux, ceux qui sont les jeunes puis qui sont dans le réseau de formation pour qu'ils aillent chercher des formations adaptées aux besoins du marché. Et ça, je dirais que c'est peut-être un des endroits qu'on a signalé, là, qu'on aurait voulu avoir plus d'imagination, un peu plus de créativité, parce que c'est le plus grand défi que les employeurs vont avoir. Puis ça rejoint tant le besoin des travailleurs, des syndicats, que des employeurs. Là-dessus, je pense qu'il y a une unité de pensée, là, il y a vraiment une convergence là, de besoins de ce côté-là.
Puis, justement, par rapport à ces mesures-là, quand vous les présentez, parce que je sais que vous voulez pas prendre parti par rapport aux partis politiques, mais au Québec, on a quand même un modèle particulier pour tout ce qui est des élections fédérales. Quand vous dites que vous êtes un peu moins satisfait, justement, par rapport à ces mesures-là d'emploi ou de formation, plutôt, comment vous voyez l'appui, justement, du Bloc québécois? Est-ce que ça vous aide ou c'est comme de négocier avec toute partie au pouvoir? Le fait qu'il y ait de l'opposition du Bloc, ça amène pas vraiment plus d'appui en ce sens-là?
Je peux pas embarquer sur un terrain politique. Comme organisation non-partisane, on peut pas faire ça.
Non.
La seule chose que je peux dire à ce moment-ci, c'est que peu importe le parti au pouvoir, peu importe les partis d'opposition, parce que les partis d'opposition ont aussi leur influence, ce qui est important, c'est réussir à convaincre le législateur, en fin de compte, qu'il y a des initiatives à prendre. Ces initiatives-là doivent être économiquement rentables. Donc, il ne s'agit pas ici de faire de nouvelles dépenses gratuites. Il faut faire des dépenses dans des endroits où il y a un retour sur l'investissement. C'est-à-dire que si on fait, par exemple, de la formation, ben il faut que cette formation-là soit adaptée aux besoins du marché. C'est pas tout de dire « je vais faire de la formation ». Vous savez, on peut sortir des cohortes et des cohortes de gens qui ont des diplômes. Si à la fin, on ne trouve pas de job parce que ce n'est pas la demande, on n'est pas plus avancé.
Oui, tout à fait.
Alors, ce qui est important, c'est que les décisions, les meilleures, soient prises dans le meilleur intérêt. Puis le meilleur intérêt, là, c'est toujours, les gens vont toujours voir ça selon leur point de vue. Quant à nous, ce qui doit primer, c'est le développement économique. Parce que si on veut pas, si on fait pas du développement économique une priorité, ben automatiquement, on crée moins d'emplois, on crée moins de richesses. Puis à la fin, si on a moins de richesses, ben, on a moins d'argent pour payer les programmes sociaux qu'on se donne. Et ça, il faut faire attention, parce que quand on veut des beaux programmes sociaux, si on est responsable, comme un père ou une mère de famille, on peut pas toujours s'endetter puis après ça, refiler la facture à nos enfants pour se payer notre trip de vie. Alors ça, c'est important d'être responsable. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prend la décision d'une nouvelle dépense ou d'un nouveau programme, il faut toujours s'assurer qu'on va aller couper ailleurs, parce qu'à ce moment-là, dans une situation où on est en déficit ou on n'est pas en surplus, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau programme et qu'on n'élimine pas une dépense semblable ailleurs, c'est qu'on augmente le déficit, on augmente la dette, puis on reporte la responsabilité de payer tout ça à nos enfants.
Et quelles sont vos trois autres priorités, justement?
Les trois autres priorités, c'est la réglementation intelligente, c'est-à-dire une réglementation qui fixe des objectifs de résultats. C'est-à-dire, encore là, c'est un peu technique, mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est on peut-on faire les choses plus simplement pour les mêmes objectifs? Alors, si on veut avoir une protection de l'environnement, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une réglementation en protection de l'environnement qui est très efficace en termes de résultats, mais sans être obligé d'être tatillonne avec des 10 000 rapports puis des 10 000 devoirs, alors que c'est peut-être pas ça qui est important. C'est le résultat qui compte, c'est pas le processus. De la même façon, en fiscalité, c'est la même chose. Il faut simplifier les choses. Vous savez, on a calculé là qu'il y avait peut-être, juste dans le domaine de l'aide aux entreprises, là, il y a à peu près 400 programmes auxquels une entreprise est exposée. Personne n'a le temps, surtout dans une PME, de savoir c'est quoi le meilleur programme qui m'aiderait, puis ils ne savent pas comment procéder, puis on cogne une porte, puis c'est pas la bonne porte, on nous renvoie une autre porte, puis une autre porte, puis une autre porte. Il faut simplifier tout ça. Il faut qu'il y ait de la simplification, puis il faut que la réglementation soit intelligente, c'est-à-dire que, par exemple, si on a des programmes, ben ces programmes-là visent des choses structurantes, pas des choses qui nous permettent de rester sur le respirateur artificiel, mais davantage des choses qui vont provoquer un développement économique. Alors, c'est notre troisième priorité. La quatrième, c'est d'avoir des politiques qui touchent la main-d'œuvre au Canada, qui soient à la fois, qui encouragent la productivité, mais aussi qui permettent de garder des coûts concurrentiels. Au Canada, on a, puis au Québec en particulier, des taxes sur la masse salariale, c'est-à-dire des cotisations pour financer des programmes sociaux qui sont prélevées à même la masse salariale. Il y en a, c'est l'employeur qui paie ça en entier. Il y en a, c'est partagé entre l'employeur et l'employé. Et ce qu'on a tendance à faire dans les différents gouvernements, au fédéral ou au provincial, c'est qu'on part un nouveau programme, on dit « Ah, on va faire financer ça par une taxe à masse salariale. » Puis là, on laisse ça tout seul. Puis là, le programme, il coûte de plus en plus cher, Donc, on est obligé d'augmenter les cotisations sur la masse salariale, tant la part de l'employé que l'employeur. Puis à la fin, on se pose jamais la question « Est-ce que c'était rentable de le faire ça? Puis par rapport aux autres juridictions à côté, est-ce que ça nous avantage ou ça nous donne des inconvénients concurrentiels? Alors, par exemple, au Québec actuellement, ça coûte 30 % de plus de cotisations sur la masse salariale qu'en Ontario juste à côté. Alors, si vous êtes une entreprise puis vous voulez créer des emplois, vous dites à chaque fois que je vais aller au Québec, si je crée un emploi additionnel, il va me coûter 30 % de plus en cotisations sur la masse salariale qu'en Ontario. Alors ça, c'est important à prendre en considération. Puis quand on va au gouvernement fédéral, ben c'est la même chose. Quand on touche à l'assurance emploi, par exemple, il faut se poser la question, est-ce que l'assurance emploi qui est financée à 100% par, pas par le gouvernement, mais par les employeurs et les employés, à raison de 60% l'employeur, 40% l'employé, est-ce que les mesures qu'on trouve dans l'assurance emploi sont les plus rentables? Est-ce que ça aide davantage l'employabilité pour quelqu'un qui perd sa job pour s'en retrouver une plus rapidement? Ou est-ce qu'on fait juste donner une prestation à quelqu'un, comme si on donnait un poisson à quelqu'un qui a faim, plutôt qu'on y apprenait à pêcher? Alors, c'est des questions comme ça qu'il faut se poser. La cinquième domaine, c'est pas compliqué, c'est tout ce qui concerne l'économie durable. Alors, tout ce qui s'appelle des investissements qui se font dans les ressources naturelles, dans les infrastructures, mais d'une façon durable, c'est-à-dire qui vont permettre à la société de ne pas payer la facture dans le futur pour des dépenses qu'on a faites aujourd'hui, puis qu'on ne s'est pas occupé soit de l'environnement ou qu'on ne s'est pas occupé de nos infrastructures pendant des années. Aujourd'hui, on voit ça au Québec, on est obligé de faire un réinvestissement énorme dans les municipalités, au gouvernement provincial, ces autoroutes. Quand on pense au pont Champlain, c'est un bon exemple. Alors, on est obligé, on est aux prises avec des dépenses aujourd'hui parce qu'on n'a pas pris les décisions au bon moment. Alors, il faut faire attention. Quand on parle de développement durable, c'est ça qu'on parle, c'est-à-dire un développement, mais qui va avoir une espérance de vie beaucoup plus grande. Donc, respectueuse de l'environnement, mais respectueuse aussi de l'entretien qui va être nécessaire de lui accorder pendant les années qui suivent. Donc, pour nous, là, ces cinq éléments-là qui sont la formation de la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre, la réglementation, la fiscalité et les investissements dans le développement de l'économie durable, ce sont nos cinq grandes priorités. Puis on a des suggestions très concrètes, parce que là, ce que je vous parle, c'est des grandes priorités, ça paraît un peu flou, mais on a des suggestions très concrètes et très responsables pour chacun de ces éléments-là.
OK. Puis sur les bases de ces cinq demandes-là, vous considériez que c'était un bon budget?
Oui, effectivement, c'est un bon budget. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un budget qui faisait preuve d'une grande créativité. Là, il n'y avait rien de spectaculaire. Il n'y avait pas un investissement majeur structurant pour l'économie, mais il y avait la base des bonnes décisions, c'est-à-dire des finances publiques saines, une fiscalité concurrentielle. Il y avait de l'investissement dans le domaine de la productivité, par exemple, un peu, mais pas suffisamment en formation. Il y avait des investissements dans les infrastructures. Franchement, il y avait quand même de bonnes décisions. Et pour les clientèles les plus vulnérables de la société, par exemple les personnes âgées ou les communautés éloignées, il y avait aussi des mesures. Est-ce que c'était des mesures avec un financement adéquat? Là, je peux pas le dire à ce moment-ci. Est-ce que les mesures étaient suffisamment financièrement intéressantes? Je peux pas vous dire à ce moment-ci, mais elles étaient là. Et je pense que je dirais que n'importe quel gouvernement responsable aurait probablement proposé de telles mesures que n'importe quel parti, sans être très spectaculaire cependant.
Et rapidement, est-ce que c'est quel est votre niveau de conclusion par rapport au budget provincial? Est-ce que c'est dans le même sens ou là on est sur tout autre terrain?
Au budget provincial, on avait des remarques tout à fait similaires. Un bon budget, un budget avec des décisions qui étaient responsables. On garde le cap sur le retour à l'équilibre. Comme la dette est beaucoup plus importante au Québec proportionnellement à son PIB, c'est sûr que la nécessité de revenir à un budget équilibré plus rapidement, c'était beaucoup plus important. Cependant, au niveau du Québec, il y a un point d'interrogation, c'est concernant la hausse des dépenses.
C'est-à-dire c'est ce qui fait parler.
Dans les années à venir, et même cette année, des dépenses plus élevées que prévues. Et je vous dis pas que c'est facile, par contre, gérer, parce que la différence entre un gouvernement provincial et un gouvernement fédéral, c'est qu'un gouvernement provincial, il est directement impliqué dans les services, et ce sont ces services-là qui augmentent davantage que les transferts. Quand vous êtes au fédéral, vos principaux postes de dépenses, c'est des postes de transfert. De transfert d'argent, par exemple, aux provinces. Et ça, il y a des calculs très précis qui disent où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est très prévisible pour un gouvernement. Tandis qu'au provincial, quand on voit des augmentations de dépenses de santé de 5 % et plus, c'est clair que c'est là où la pression est la plus forte. Donc, je ne peux pas nier le fait que le gouvernement provincial, comme le gouvernement du Québec, est exposé à beaucoup plus de pression sur la hausse de ses dépenses qu'au gouvernement fédéral. Mais c'est inquiétant, parce que on voit quand même des augmentations de dépenses plus hautes que prévues. Et quand on regarde juste dans le domaine de la santé, vous savez, aujourd'hui, le domaine de la santé s'est rendu 48 % des dépenses totales de programmes de l'État. Ça veut dire que peu importe ce que vous faites dans tous les autres ministères, si on corrige pas la situation dans le domaine de la santé, ben bientôt, ça va être 60 % du budget de l'État en programme qui va être la santé. C'est pas normal. Dans le fond, c'est rendu plus un gouvernement, c'est rendu un ministère de la santé. Ça veut dire qu'il va falloir prendre des décisions très courageuses dans ce domaine-là. Le gouvernement précise dans son budget qu'au total, ses dépenses en santé vont augmenter de 5 % cette année. C'est le plus gros poste de dépenses. Si j'inclus la famille et l'enfance, parce que c'est un autre 6 % qui est là aussi, c'est là où se passe le plus gros de l'augmentation des dépenses. Le seul autre poste de dépenses qui augmente, c'est en éducation, 2,2%. Et tous les autres ministères, c'est soit zéro, soit inférieur. Donc, tranquillement, on est en train de transformer le gouvernement du Québec en ministère de la santé géant. Alors, ça, c'est préoccupant. Ça ne veut pas dire que le ministre des Finances pouvait faire des choses dans le budget actuel, mais ça veut dire quand même c'est préoccupant de voir que les dépenses continuent d'augmenter, et surtout qu'elles augmentent à un rythme encore plus élevé que prévu. Par chance, les revenus de l'État, eux autres, à cause de la croissance économique qui a été assez bonne, sont meilleurs que prévu, ce qui fait en sorte que le gouvernement a généré quand même un déficit cette année, mais un déficit un peu moins élevé quand même que ce qui était prévu. Donc, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il y a une croissance économique, donc le gouvernement fait plus de revenus, mais c'est toujours préoccupant de voir que les dépenses continuent d'augmenter à un rythme assez important.
Exact. Donc, les gains qu'on fait, dans le fond, c'est pas dû à des coupures ou à des rationalisations ou des l'augmentation de l'efficience, c'est parce que l'économie se porte mieux?
C'est-à-dire que le gros gain se fait là, mais il y a eu aussi des économies. Le gouvernement, il faut dire qu'il a dit, il avait fixé des cibles de réduction de dépenses. Et dans les chiffres qu'ils nous ont fournis dans le budget provincial la semaine précédente, c'était les cibles ont été atteintes. Alors, en théorie, le gouvernement aurait atteint ses... Maintenant, quand je dis en théorie, c'est parce que, vous savez, c'est assez difficile d'évaluer vraiment des économies de productivité, là. Des fois, là, on peut faire dire à des chiffres ce qu'on veut. Mm-hmm. Donc, on voit que les principales augmentations de dépenses qui étaient non prévues, quand même des incidents ou des choses qui étaient prévisibles, mais qui n'étaient pas nécessairement dans le budget de la même façon. Par exemple, les trois postes où il y a eu plus d'augmentation de dépenses non prévisibles, ça a été premièrement le régime de rente des employés de la fonction publique, qui représente un déficit actuariel beaucoup plus grand que prévu, donc ils sont obligés de pomper plus d'argent là-dedans. Il y a aussi la question de l'équité salariale, c'est-à-dire qu'il y a eu des règlements d'équité salariale durant l'année qui ont coûté beaucoup plus d'argent qu'il était prévu. Donc, ce sont des éléments prévisible parce que ces choses-là, on les savait que ça arriverait, mais pas nécessairement prévisible au montant où c'est arrivé. Alors, ça, c'est clair, c'est des dépenses qui sont en surprise, mais en même temps, le gouvernement s'est gardé quand même un pourcentage d'argent pour faire face à ces imprévus-là. C'est pour ça qu'il a rencontré ses objectifs, mais les dépenses sont plus élevées que prévues. Et ce qui est préoccupant, comme je vous l'ai dit, c'est quand on regarde les prochaines années, le gouvernement maintient son cap, ça c'est responsable. Il précise certaines cibles, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas précisées. Donc, on est encore dans le flou pas mal là sur de quelle façon il va réussir à accomplir ou à rencontrer les économies espérées. Puis plus on retarde en passant, plus le choc va être dur. Ouais. Puis on ne peut plus demander aux citoyens des nouvelles augmentations. Encore cette année, là, il y a un autre pourcent de plus en taxes TVQ. Là. Mmh. On ne peut pas demander aux citoyens d'en payer toujours davantage. Là, il y a les frais de scolarité qui vont augmenter. Il y a le frais de santé, là, le montant forfaitaire de santé que les gens vont payer. Donc, ça fait quand même toujours un peu plus d'argent qu'ils vont charger aux citoyens. Les plus pauvres, quand je dis les plus pauvres, là, je dirais c'est quasiment 40% quand même de ceux qui déclarent des revenus au Québec sont quand même protégés parce que le gouvernement instaure des crédits, par exemple, TPS, TVQ, des crédits de solidarité pour faire face aux augmentations de tarifs, etc. Donc, je dirais que la couche de revenus modestes au Québec est quand même bien protégée. Eux autres, il y a un bon filet. Puis ils sont bien protégés, même si la vie n'est pas facile pour les gens de faible revenu. Le gouvernement, dans ses décisions, il compense les augmentations de taxes et de tarifs en leur donnant des crédits additionnels. Ouais. Donc là-dessus, je pense que ce n'est pas eux autres qui sont les plus à plaindre, je dirais. C'est la classe moyenne qui, elle, est vraiment prise en sandwich dans tout ça.
Ouais, c'est les clients de vos membres, dans le fond, la classe moyenne. C'est ceux qui achètent, c'est ceux qui consomment. S'ils ont 1 000 $ de moins dans leur poche, c'est des achats de moins qu'ils vont faire.
Effectivement.
Donc, ça va avoir un impact sur l'économie.
Au niveau du fédéral, on a supporté l'orientation de baisser des impôts. Mm-hmm. Et il faut savoir quand même, au Québec, il y en a eu une baisse d'impôts. Par contre, il y a des augmentations de taxes. Le problème au Québec, à mon avis, c'est que trop de groupes de pression veulent avoir toujours davantage de bénéfices et davantage de programmes. Ouais. Et ça, ça coûte très cher. Et en même temps, les mêmes Québécois disent « Oui, mais chargez-moi pas plus. » Mais à la fin, là, on ne peut pas demander toujours plus davantage de bénéfices puis en même temps dire au gouvernement « Mais chargez-moi pas cher. » Alors, il y a comme un discours. Je dirais que ce n'est pas toute la responsabilité des gouvernements dans ça. C'est d'abord la société comme telle qui, malheureusement, se laissent, je dirais, influencer à gauche, à droite, selon le vent qui tourne, en fonction des demandes de certains groupes de pression. Et là-dessus, on en est un groupe de pression. Là. C'est qu'on soit clair, là, nous, on en est un, puis ce qu'on favorise quant à nous, c'est des meilleures conditions possibles pour le développement économique le plus prospère. Ça ne veut pas dire que les gens doivent être d'accord avec nous, mais nous, on a, je pense, une approche assez responsable et rationnelle. On n'est pas un groupe d'extrême droite. On est un groupe qui, tout simplement, respecte, la spécificité du Québec, les valeurs. On est la société la plus égalitaire. Il faut respecter ça. On a des goûts pour des groupes, des moyens ou des politiques plus collectives qu'individuelles. Il faut respecter ça. C'est la valeur spécifique là, de la culture québécoise. Mais en même temps, il faut s'assurer que nos entreprises puissent se développer, puissent créer de l'emploi, créer de la richesse, parce que sinon, là, c'est pas parce qu'on a des programmes sociaux généreux qu'on va mieux vivre. Parce qu'à la fin, vous savez qu'au Québec, on est une des provinces les plus pauvres au Canada. C'est triste de dire ça. On pense tous qu'on est bien riche, mais c'est le faux. Au Québec, on a le moins grand nombre de riches par habitant qu'ailleurs. Au Québec, par exemple, si on prenait des revenus de 100 000 et plus, il y a juste 3,2 % de la population qui gagne 100 000 et plus. Pour quelqu'un qui dit 40 000 $, qui gagne 40 000 $ puis qui il écoute ce que je viens de dire, il va dire « Ouais, 100 000, c'est beaucoup. » Mais si vous allez en Ontario, c'est 9 % des contribuables qui gagnent 100 000 $ et plus. Puis si vous allez, la moyenne canadienne est bien supérieure au Québec. Ben c'est eux qui paient la grande majorité des dépenses publiques. Parce que vous savez, le 3,2 % de la population québécoise qui gagne 100 000 $ et plus, elle paie, ce pourcentage-là des gens-là, paie 30 % de l'ensemble des impôts des particuliers au Québec. Oui. Alors, la contribution est majeure. Moins on a de riches, moins on a de contributions. Plus on a de riches, plus on va avoir une contribution qui va permettre de financer nos programmes. Alors, c'est pour ça qu'on dit il faut créer plus de richesses, parce que la réalité au Québec, c'est que le Québec est une province pauvre en riches.
Ouais. Puis, je voulais savoir, peut-être, c'est quoi la position du Conseil du patronat, justement, sur, on apprend année après année que c'est au Québec aussi qui se donne le plus de subventions aux entreprises. Je demandais, vous avez, dans le fond, des membres qui en profitent, il y en a peut-être d'autres que ça a des avantages, donc c'est quoi la position officielle du Conseil du patronat là-dessus?
La position est très responsable de ce côté-là. Première information importante à connaître, par exemple, c'est que il est vrai qu'au Québec, si on regarde le pourcentage de programmes d'aide aux entreprises est plus grand au Québec qu'ailleurs, mais ça inclut le secteur agricole. Et au Québec, c'est le secteur agricole qui est, je dirais, le plus subventionné dans toute la province, dans tout le pays. Alors, il y a le secteur agricole d'une part. Par ailleurs, c'est vrai aussi qu'il y a des programmes très généreux pour les entreprises. C'est pour ça que nous, dans les consultations qu'on a mentionnées tantôt avec le ministre des Finances, on est arrivé de façon très responsable et même si on représente l'ensemble des entreprises, on a dit au gouvernement, écoutez, comme il y a suffisamment d'argent dans l'aide financière pour les entreprises au Québec, il ne faut pas l'augmenter davantage et même si vous allégez quelques taxes sur la masse salariale qui sont beaucoup trop élevées, nous, on vous dit qu'on peut même diminuer l'aide financière aux entreprises au Québec et que l'aide financière qui existe rencontre 5 priorités spécifiques et ça, c'est beaucoup plus stratégique et structurant pour l'économie. Donc, on a dit au gouvernement, en résumé, là, on trouve qu'il y en a assez, vous pouvez même le réduire parce qu'on sait que le gouvernement est en déficit, le gouvernement a besoin de contrôler ses dépenses. Alors, du côté des entreprises, on va être responsable, on va dire, écoutez, nous, on est prêt à avoir une réduction de l'aide financière totale. Par contre, on veut que cette aide-là soit structurante, c'est-à-dire qu'elle serve vraiment à créer de l'emploi, à développer de la richesse, au lieu d'être juste de l'aide qui sert des fois comme respirateur artificiel, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est non vivable à long terme, reçoit de l'aide juste pour être maintenue en vie. Ça, c'est pas une bonne aide financière. Il faut que ce soit une aide qui dise l'entreprise, avec cette aide-là, va pouvoir permettre de créer de l'emploi, créer de la richesse. C'est ça qui est important. Puis on le fait de façon très responsable. On est le seul groupe à travers le Québec qui a eu le courage de dire au gouvernement, vous savez, on comprend la situation des finances, on peut réduire à cet endroit-là, on peut investir ici en contrepartie, puis on va atteindre de meilleurs objectifs.
Avez-vous été jusqu'à chiffrer ce que vous étiez prêt à accepter comme baisse? Parce qu'il y a vraiment une grosse différence si on compare avec l'Ontario puis le Québec puis tout ça. Avez-vous été jusqu'à dire on est prêt à enlever 30% ou...
C'est-à-dire qu'au lieu de dire 30%, parce que vous savez, comme il y a 400 programmes, on ne sait pas exactement le pourcentage de l'argent qui va à chaque chose. Ce qu'on a dit au gouvernement, c'est qu'on y prenne une réduction, puis on a même dit au gouvernement, voici 5 endroits où là, vous pourrez investir, puis le reste, laissez donc faire.
OK. Puis ces demandes-là, est-ce qu'ils sont sur votre site Internet ou quelque chose, qu'on puisse les voir, ouais? OK. Parce qu'il ne faudrait pas que ça défavorise l'entrepreneurship de ceux qui commencent.
Ben, ça fait partie des 5 secteurs qu'on a dit qu'il fallait investir.
Okay.
On a dit, si vous avez de l'investissement à faire, il faut que ce soit, un, pour aider à la commercialisation, parce qu'au Québec, on est très fort pour développer des produits, puis on est très mauvais pour le vendre.
Mm-hmm.
On est très mauvais dans le sens de la commercialisation, de la recherche et du développement ici. On fait beaucoup plus de recherche et développement partout ailleurs, puis on n'arrive pas à la vente. Alors, un, aider à la commercialisation. Deux, la recherche et développement qu'on fait, on est très pauvre en innovation. C'est curieux, hein? On investit plus que partout ailleurs en recherche et développement, puis on fait moins d'innovation que partout ailleurs. Fait qu'on a dit, il faut travailler à ce que, si on a une aide financière, ce soit fait pour donner une valeur ajoutée à un produit ou service, ou à un service qu'une entreprise offre. Faire en sorte de mieux concurrencer les adversaires.
Ça veut dire que ça reste sur papier? Les découvertes restent sur papier, puis ils ne voient jamais le jour?
Exactement.
Ah ouais?
Troisième élément, où c'est des bonnes découvertes, mais c'est des découvertes qui ne sont pas utiles pour le marché.
Ouais.
Alors, c'est des découvertes qui restent à l'université puis qui ne sortent pas dans une application d'innovation.
Okay.
Troisièmement, on dit qu'il faut que ce soit pour aider la productivité. C'est-à-dire qu'on a un gros déficit au Québec, on est l'endroit le moins productif en Amérique du Nord. Et on est parmi les sociétés une des moins productives. Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas fort. Ça veut dire que la valeur ajoutée, la valeur qu'on produit est moins élevée qu'ailleurs. Et ça, c'est pas juste le travailleur qui est responsable, c'est une série de facteurs. Il faut donc investir en machinerie, équipement, technologie. On est en sous-investissement en technologie de l'information puis en technologie numérique quand on se compare. Puis nos employés sont moins bien formés. Alors, nous, ce qui est important, c'est de faire en sorte d'investir dans la formation et dans l'équipement pour améliorer la productivité. L'autre élément qu'on a dit qu'il fallait investir, c'est dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire trouver des façons de faire pour soutenir et encourager l'entrepreneuriat. Il faut faire attention, par contre. Le gouvernement ne peut pas créer des entrepreneurs.
Non.
La seule chose que le gouvernement peut faire, c'est faciliter l'éclosion de l'entrepreneurship. Alors, si un entrepreneur n'a pas un environnement intéressant, ben, il n'entreprendra pas. S'il y a une fiscalité trop lourde, ou s'il n'est pas capable d'avoir accès à des capitaux de risque, ou s'il n'y a pas un partage de connaissances par des réseaux ou des mentors pour leur éviter de faire des erreurs puis de tomber en faillite, ben il n'est pas avantagé. Donc, c'est important d'investir là-dedans. Alors, voyez-vous, c'est des investissements qui sont assez concrets, qui sont porteurs pour le développement économique, et on est prêt à voir d'autres programmes de subvention qui ne favorisent pas les éléments que je viens de mentionner. On est prêt à les voir réduits en termes d'aide financière parce que c'est moins structurant que ce que je vous ai donné.
Okay. Donc, dans le fond, vous favorisez une fiscalité plus qui aide plus les entreprises que des subventions.
Exact.
Okay.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Dorval.
Bienvenue. Ça va.
Vous nous avez, je pense, donné une bonne lumière par rapport au budget fédéral, au budget provincial, et puis aussi ben, par rapport aussi à la mission de votre organisme. Donc, on invite les gens à consulter votre site Internet.
www.cpq.qc.ca.
Ben merci et bonne soirée.
Bienvenue à vous aussi. Au revoir.
Merci, au revoir.
Bye bye.
Très intéressant. Encore un invité qui avait beaucoup de matériel.
Ben deux budgets en deux semaines, ça donne du matériel.
Oui, puis on voit que qu'il maîtrise son dossier. Des fois, je veux pas dénigrer certains présidents d'associations, mais des fois, ils font plus affaire avec des spécialistes, ça même leur organisation, mais là, on sent que le président du conseil du patronat est solide. Là. Mm. Il y a un discours qui, moi, m'interpelle aussi par rapport à ses positions. Je te remercie, Danny, d'ailleurs, d'avoir posé des questions aussi pointues par rapport à leurs priorités.
C'est surtout l'aspect subvention. Moi, ça me tracasse depuis
ouais.
longtemps.
Puis, on sait, on en a déjà parlé.
C'est le sujet de notre émission aussi, donc on comprend que le conseil du patronat, c'est un lobby. Mais de l'autre côté, est-ce que c'est le lobby qui est responsable du fait qu'on a plus de subventions au Québec? Donc, je voulais savoir son opinion là-dessus. Mais je vais aller consulter les documents. Je veux voir jusqu'où ça a été
demandé
précisément. Puis tout ça.
Puis, connaissant, tu vas le faire.
Oui, je vais le faire.
Oui. Et ta question sur l'entrepreneurship, ben, pour dire aux gens, tu es un beauceron dans l'âme. Fait que toi, l'entrepreneurship, ça déborde.
Ça déborde. J'ai parti mon entreprise en 2008.
Ben oui, puis.
Je suis de ça.
Je pense que tu as expérimenté d'ailleurs certains de ces programmes-là, sans dire que tu as eu de subventions. C'est pas le cas.
Ben, on peut dire,
tu as eu de l'aide. Oui, comme on dit, du coaching, du mentorat.
Donc, je suis pas gêné de le dire, c'était de l'assurance chômage.
Oui.
Pendant que je faisais mon cours sur comment lancer une entreprise.
Ben oui.
Donc, c'est un programme qui existait. Mais j'ai vécu de tout ça pendant que j'écrivais mon plan d'affaires. Donc,
ça a fonctionné. Puis aujourd'hui, c'est une entreprise florissante.
Oui, puis il y avait des statistiques, je ne m'en rappelle pas malheureusement, là, mais il y a des statistiques qui parlent vraiment spécifiquement là, la différence entre la réussite de ceux qui ont suivi un cours en lancement d'entreprise versus ceux qui ne l'ont pas suivi. Là, il y a de grandes marges. T'sais. Ça nous ouvre les yeux, ça nous force, il nous questionne. En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça de partout où est-ce qu'on suit les cours. On donne le cours, là, mais on te met face à toi-même, puis tout ça. Donc, moi, j'en ai profité de tout ça. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas touché à aucune subvention. Il y a probablement des programmes qui s'appliqueraient, là, mais je n'ai même pas regardé.
Non,
je manque de temps, je n'ai même pas le temps.
Ben, ça veut dire que tes affaires vont bien.
Ben, ça veut dire que ça demande beaucoup de travail.
Oui, c'est sûr. Effectivement, c'est sûr mais quand on travaille, c'est parce que ça va bien, généralement. Ceux qui se tournent les pouces.
Ouais, moi, c'est beaucoup parce que j'ai beaucoup de projets. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Donc, c'est ça qui demande beaucoup de temps. Pour le futur de l'entreprise et tout ça. Là. Donc,
et justement, on va faire une pause. Et de l'autre côté, on va s'entretenir avec Marc-Olivier Fortin. Oui. Puis, puis justement, tu vas faire, après peut-être cette chronique-là, un lien avec aussi, ou peut-être durant la chronique, parce que tu pars plein de choses, que ce soit d'un point de vue entreprise, puis je pense que t'es à l'affût aussi de plein de projets qui sont intéressants. Puis de l'autre côté de la pause, justement, on va s'entretenir avec Marc-Olivier Fortin, à propos d'un nouveau journal de droite, un journal étudiant. C'est intéressant, ça. Puis encore là, on voit que, je sais pas si c'est... Je pense pas que c'est une mode. On sent que ces choses-là sont en train de se mettre en place au Québec. Puis je pense que ça va être le fun, ce qu'on va découvrir après la pause. Donc, on va faire une petite pause. Mm-hmm. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. Vous êtes sur les ondes du XM172, bien sûr. Et on se retrouve de l'autre côté. Et oui, on est de retour sur les ondes du XM 172. Vous êtes à l'émission Connaître la suite avec Steve et Danny. Le temps de prendre notre souffle, petite gorgée.
Une petite gorgée.
Oui. Et oui, comme promis, on a le plaisir de s'entretenir avec Marc-Olivier Fortin, qui est impliqué sur la mise sur pied, sur évidemment le, il est le titre exact, c'est développement des affaires.
En anglais, exact. Director of Business Development.
Oui, donc du journal étudiant The Prince Arthur Herald. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour à vous deux.
Oui, merci d'avoir accepté notre invitation.
Ah, mais ça fait plaisir. Tout le plaisir est pour moi, voyons.
Et oui, parle-nous de ce journal qu'on a de la misère à prononcer, mais pour l'expliquer, c'est un journal anglophone.
Oui, ben en fait, c'est un journal qui a vu le jour au début janvier. C'est un journal qui a été fondé par deux personnes qui s'appellent Kevin Pidgeon puis Brendan Steven. Chacun le président et vice-président. Et c'était... nous autres, notre but, c'est d'amener de la diversité sur le campus étudiant de McGill. Parce qu'à McGill, qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux journaux. Il y a le McGill Daily, qui est un journal vraiment de gauche, et t'as le McGill Tribune, qui est plus centriste, puis qui est capable de faire la bonne part des choses. Mais on voulait apporter de la diversité, quelque chose d'un peu plus à droite, centre-droit, droit, dépendant des auteurs qu'on a. Et c'était ça notre but, en fait. Et ça a super bien fonctionné. Le journal est publié sur Internet seulement depuis janvier. Et on a 160 000 pages qui ont été visitées jusqu'à maintenant. On a environ 1000 visiteurs indépendants par jour, puis 1500 personnes qui vont sur le site par jour. Donc, il y en a au moins 500 qui reviennent plus qu'une fois. Là.
Wow. Et toi, en tant que directeur du développement des affaires, tu es là pour établir des ponts avec d'autres organes, justement, qui promouvoient les mêmes idées?
Exactement. En fait, on a été pris par notre propre succès. On est 7 personnes sur l'exécutif. Il y a Kevin, Brendan, il y a moi-même. Il y a également Alexandre qui vient Météricienne, qui vient du Québec, la région du Saguenay. Il y a Scott qui vient de la Colombie-Britannique, Scott Myers, Olivier Conroy qui vient du New Jersey et Patrick Brousseau qui vient de la Nouvelle-Écosse. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est que l'on se rend compte que bon, il y a beaucoup de personnes qui ont embarqué. On a beaucoup d'éditorialistes. On a 40 éditorialistes, puis 17 éditeurs, puis des fois aussi qui contribuent comme ou qui font partie de l'administration. Comme moi, je fais partie de l'administration, mais j'ai également un article à chaque semaine que je publie. Donc, le contenu est très gros et on s'est dit qu'on pouvait plus continuer comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui se sont également intéressées au Prince Arthur. Fait que nous, on s'est dit, bon, ben là, ce qu'on est en train de penser, bien, on est dans le processus, en fait, de le faire, c'est de mettre le Prince Arthur en corporation.
Ah oui?
Oui, ça va se faire au cours du mois d'avril. Vu qu'on est en train de faire ça, on est également aussi à la recherche de financement. Okay. Parce que, comme je disais, on était un peu pris avec notre succès. On a beaucoup de personnes qui viennent voir le site. On a beaucoup d'articles. Et le site est quand même très bien, mais c'est un site très de base. Là, c'est fait avec... en anglais, on dit du coding, là, du très simple. Notre premier investissement avec l'argent qu'on est en train d'essayer de ramasser, ça va être de faire un meilleur site web, beaucoup plus professionnel. Et moi, en tant que directeur du développement de l'entreprise, c'est d'aller justement établir des ponts avec des gens qui seraient intéressés dans le journal.
C'est-tu considéré comme un journal de McGill ou c'est un journal pan-canadien? Comment vous le décrivez?
Le but au début, c'était de faire un journal de McGill, mais en deux jours, on est devenu la source première des étudiants à travers le pays de nouvelles. Et ça s'est vraiment étendu super rapidement, entre autres à cause, vous connaissez peut-être le Dr. Roy, qui a un blog sur Internet qui est assez connu à Montréal, et il a publié notre site, il a des contacts avec Blogging Tories, qui est un rassemblement de blogs un peu plus conservateurs, là, dépendant des opinions libertariens conservateurs, et ça s'est répandu super rapidement, il y a beaucoup de personnes qui ont embarqué de l'Est du Canada jusqu'à la côte ouest, et finalement, on est devenu pan-canadien en quelques jours, sans s'en rendre compte vraiment.
Ben, juste pour dire, moi, c'est par Dr. Roy, par un de ses tweets, que j'ai découvert votre journal. Donc,
c'est hier soir. Vous voyez, C'est tout par les médias sociaux qu'on a réussi à se faire connaître. Ensuite, on a été mentionné à deux reprises dans la Chambre des communes, une fois par le député Rob Enders, qui parlait des valeurs que notre journal promouvait, et la deuxième fois, ça a été par le député James Looney. On a eu, il y a une semaine à McGill, mais je pense que c'est un peu partout au Canada, là, qui est la semaine contre l'apartheid des Israéliens. Et nous autres, on s'avait fait un mandat au prince Arthur de dénoncer ça vivement. Et le député Looney a mentionné le prince Arthur à la Chambre des communes pour dire qu'on faisait un bon travail dans ce sens-là. Fait qu'on était mentionné également, il y a un de nos éditorialistes, Zach Bacon, qui est allé deux fois au Michael Curran Show, qui est une émission assez populaire, qu'on discute de politique à Toronto. Puis il était là deux fois. J'ai moi-même été à l'émission de Mario Dumont pour discuter du budget. Mm-hmm. Donc, vraiment, le prince Arthur a beaucoup de visibilité et il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ça.
Et j'ai une question de néophyte. Faut que je te pose la question, Marc-Olivier. Oui. D'où vient le nom? Pourquoi le prince Arthur?
C'est que notre président habite le McGill, il y a le campus de McGill et il y a ce qu'on appelle le McGill Ghetto, qui est là où tous les étudiants habitent. Et la rue principale du ghetto s'appelle la rue Prince Arthur.
OK. Okay, à Montréal.
À Montréal. Okay. Donc, ça a parti de là.
OK.
et justement, quand on consulte votre site Internet, on voit que vous avez créé des catégories. Puis, c'est intéressant de voir aussi vos positions à travers vos billets. Comment vous déterminez justement ce qui est affiché? Parce que, comme tu as dit, vous dites un journal de centre-droite, de droite. Comment est fait la sélection? Est-ce qu'il y a un comité de concertation justement avant de mettre les choses en ligne? Comment vous gérez ça? Parce que j'imagine aussi que vous essayez d'innover par vos articles, par vos billets. Donc, comment vous décidez de mettre tout ça en ligne?
Ah ben, c'est sûr que notre but est d'aller chercher un marché, un auditoire que le consensus des médias qu'on a en ce moment, le consensus social médiatique, qui ne va pas chercher. Donc, c'est sûr qu'on essaie le plus possible de présenter une opinion différente, un peu plus de droite, centre-droite. Il y a certains, pour souci d'honnêteté, il y a de diversité, c'est sûr qu'on présente quelques articles qui sont un peu plus de gauche, un peu plus de centre, mais la majorité des articles, c'est tout de centre droit et droit. Mais tout est regardé de façon vigoureuse. Chaque article qu'on publie est regardé par l'éditeur en chef, qui est Brendan Steven, et l'éditeur attitré à chaque éditorialiste.
Okay.
Et il va déterminer, lui, si le contenu est assez recherché, que ce soit de gauche ou de droite, pour être publié. Mais c'est sûr que la grande majorité des articles vont être de droite. Exemple, on publie environ 8 articles par jour, puis là-dessus, au moins 6 qui vont être de droite. Des fois, c'est 8, dépendant de quel éditeur va publier cette journée-là, mais la grande majorité, c'est comme ça. Mais on essaie aussi, on a essayé d'innover aussi dans ce sens-là. Pour la diversité des opinions, on a inventé quelque chose qui s'appelle Three Bears, qui est dans le fond trois éditorialistes sur la même page qui vont exprimer leur opinion sur un sujet. Donc, on va avoir vraiment une variété d'opinions qui vont être vraiment sur la même page et les gens vont pouvoir comparer. Tandis que souvent, ce qui va arriver, c'est que dans un média traditionnel, on va écouter, exemple, Radio-Canada qui va exprimer une opinion par rapport à un certain sujet et on doit changer de source pour aller voir l'autre côté. Mm-hmm. Et nous autres, on a mis ça sur la même page, trois éditeurs qui vont pouvoir, trois éditorialistes qui se confrontent, mais qui comparent leurs idées sur le même sujet.
Et nous, on est la source qu'il faut consulter après avoir écouté Radio-Canada. Donc, nous, on a compris ça aussi. Je voulais savoir, premièrement, mettons le ratio entre... Y a-t-il des textes informatifs ou c'est que de l'opinion?
Pour l'instant, la majeure partie, c'est des textes éditoriaux, c'est des textes d'opinion.
Okay.
Par contre, chaque texte d'opinion est recherché et on s'assure que les faits sont exacts. On voudrait pas non plus que quelqu'un arrive et fasse un texte d'opinion sans chiffres à l'appui ou sans argument solide à l'appui. Donc, oui, c'est un texte d'opinion, mais tout est super bien recherché et on est capable de garder une certaine crédibilité.
OK. Puis à McGill, y a-t-il une faculté pour le journalisme ou...
Il y a une faculté de communication, okay. Mais il y a vraiment aucune personne à ma connaissance qui participe dans le journal. Pour vous donner une idée, dans les sept administrateurs du journal, Kevin étudie en histoire, Brendan en sciences politiques, moi j'étudie en économie et finance, Alex en sciences politiques, Scott en sciences politiques également, et Olivier en histoire et Patrick Brousseau en histoire. Donc c'est vraiment dans des sciences humaines là que ça se concentre notre champ d'études.
OK. Puis toi, t'es étudiant quoi? On a oublié de te le demander.
Non, je voulais dire. En économie finance.
En économie finance, okay, excuse-moi.
Oui, non, pas de problème. Puis, justement, nos différents... Puis, on a essayé quand même d'aller chercher du monde qui ont des différents champs d'intérêt sur le campus. C'est comme ça qu'on est capable de donner dans des catégories d'articles. On a des catégories sur le sport. On a une forte catégorie... Il parle d'actualité sportive. Ça fait différent de la politique pour les gens qui veulent avoir un contenu un peu plus léger.
Sport de droite?
on essaie de donner une différente perspective, mais tu sais, c'est un peu plus factuel, par contre.
Parlez juste des ailiers droits, des défenseurs droits.
Ouais, ouais, nous autres, on se concentre juste là. On parle juste des ailiers droits, des batteurs au baseball de droite, puis d'habitude, c'est eux qui frappent le mieux, là. on a également des articles sur la santé, la finance, la culture, la vie sur le campus, fait qu'on essaie de diversifier. Par contre, c'est sûr que la majorité de nos articles vont avoir rapport à la politique.
Et là, est-ce qu'on fait affaire avec des gens qui ont un background ou de gens qui veulent s'investir en politique? Quand on vous lit, est-ce que la politique est le tronc commun justement des gens qui sont derrière votre journal?
Ben c'est sûr que tu sais, on veut pas se le cacher. Dans l'exécutif en tant que tel, avec les gens avec qui j'ai le plus de liens, il y en a 3-4 sur l'exécutif qui participent à Conservateur McGill. Okay. Alexandre Météricien a travaillé l'été passé pour l'ancien, vu que le gouvernement est tombé aujourd'hui, mais le ministre des Affaires étrangères, Lawrence Cannon. Brendan a travaillé pour Peter Brand, qui est un député dans Kitchener-Waterloo. Moi-même, j'ai travaillé pour le ministre Paradis il y a 2 ans dans son cabinet durant un été. Fait que c'est sûr qu'on a, on se le cache pas, là, on a un lien avec la politique fédérale. On a été impliqué au niveau conservateur. Par contre, faut pas penser que ils nous ont incité à partir le journal. Non. Nous autres, c'est vraiment, ça vient de nous, c'est une initiative personnelle.
Mais on le sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui viennent des médias, des journaux comme ça, qui des fois font le saut en politique. Donc, le faites-vous aussi dans un intérêt peut-être de construire, justement, peut-être un plan de carrière? Parce que je comprends que vous étudiez dans des domaines différents, mais j'imagine que tout à l'heure, avec la, je pense, le professionnalisme que vous mettez derrière ce journal-là, vous allez intéresser des gens bientôt, et en étant comme ça dans la fleur de l'art, j'imagine que les gens voient en vous peut-être une manne future pour les assises des partis politiques.
Ben, c'est sûr que les gens sont intéressés par ce qu'on fait, mais notre objectif premier n'est certainement pas des objectifs personnels. Nous autres, notre but, c'est vraiment d'amener un débat d'opinion Canada, un débat d'opinion Québec également. Comme je voulais vous en parler, on va sortir une version francophone bientôt. Donc vraiment, notre but, c'est de créer une diversité, d'apporter un débat d'idées. Ça donne bien, je trouve, parce que au niveau de la télévision, il y a Sun TV News qui va sortir au mois d'avril,
oui.
qui va apporter une diversité. Mais nous autres, on dit, bon, on va faire la même affaire, mais au niveau des journaux. On est allé avec le Prince Arthur Herald.
Okay. Donc là, ça serait une version québécoise ou une version bilingue de ce que vous faites présentement?
Québécoise, vraiment.
Francophone, québécoise.
Oui, on a engagé la semaine passée une éditrice... francophone qui s'appelle Anne-Marie Lemay, étudie à l'Université de Sherbrooke en droit. On a déjà recruté plusieurs éditorialistes, entre autres Frédéric Lamontagne, c'est un étudiant en sciences politiques à l'Université de Sherbrooke. Pierre-Olivier Bastien-Dionne, qui est un bac en biochimie, une maîtrise en neurobiologie, puis il est en train de faire son doctorat en endocrinologie. Fait que c'est vraiment une perspective différente qu'on va apporter. Et il y a Martin Otis qu'on a recruté, ah ouais. qui finit sa dernière année au HEC. Fait que c'est vraiment 3 personnes avec des intérêts différents qui vont apporter une nouvelle perspective au Prince Arthur, et ça uniquement en français. Okay. Fait que on trouve ça super intéressant parce que, oui, on est en train de percer le marché canadien au complet, Et même, on est en train de faire une percée, je suis dans le marché américain, avec plusieurs de nos articles qui concernent la politique américaine. Cependant, on trouvait qu'il y avait un manque au niveau du Québec et dans les prochaines semaines, on va le combler.
Ben, vous féliciterez les gens parce que moi, ça fait depuis 2007 que je rêve d'un journal francophone de droite.
Ah.
Vous me féliciterez, là, ça fait...
Ben, merci beaucoup, mais en tout cas, on travaille là-dessus. C'est sûr qu'il y avait un manque au Québec. Tu sais, même, il y avait des gens qui me disaient, ah, ben, tu sais, des fois, le journal de Montréal, ou mais c'est rien là, comparé à ce qu'on peut faire en termes d'idées de droite, là.
Plus intellectuel un peu.
Oui, ben c'est ça. On essaie de faire nos textes le plus simple possible à lire, mais qui sont rigoureux intellectuellement.
Mmh. Un devoir de droite un peu, le devoir
ouais,
mais
ouais,
de droite.
C'est ça. On veut pas rentrer dans des arguments émotionnels.
Exact.
Mais justement, parce qu'on sait qu'au Québec, bon, dans le domaine de l'éducation, c'est souvent très teinté de gauche. On sait qu'effectivement, il y a beaucoup de journaux étudiants justement de gauche. Comment on se sent en tant qu'étudiant dans cet appareil-là qui est très teinté vers la gauche? Est-ce que tu t'es senti privé justement? Et c'est peut-être quelque chose qui a motivé justement l'implication par rapport à un journal de droite?
En effet, écoutez, c'est sûr que chaque étudiant de droite que je rencontre a toujours sa propre histoire à travers le système d'éducation québécois. Ça n'a jamais été facile. Je pense que chacun d'entre nous, on a vécu quelque chose à un moment donné, soit de l'intimidation,
ben
soit...
Ben oui, tout à fait.
C'est vraiment spécial. Et en parlant justement de ça, juste à titre d'exemple, à McGill, il y a deux semaines, on présentait, conservateur McGill et libertarian McGill, présentaient le film Indoctrinate You, qui est un film aux États-Unis qui parle de la liberté d'expression sur les campus étudiants. Et il y a quelqu'un qui a fait des menaces sur Twitter, qui était dans la salle, qui disait qu'il aurait dû apporter un M16 pour tout nous tirer. Fait que ça s'est ramassé dans les journaux, ça s'est ramassé à la police, ça s'est ramassé jusqu'à Fox News aux États-Unis. Mais c'est juste pour dire que juste en présentant un film, on est vraiment atteint personnellement. Tu sais, c'est des menaces graves, là, on s'entend.
Ben oui, je comprends.
Fait que sinon ça n'a jamais été facile. Ou si ça l'a motivé, je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, ah, tu sais, moi je suis de droite, mais j'ose pas parler à l'école. Les syndicats étudiants sont trop puissants, ils nous intimident beaucoup. Fait qu'on n'ose pas parler, puis on fait nos petites affaires, puis c'est tout. Mais moi, ce que j'appelle, c'est la majorité silencieuse. Puis nous autres, on s'est dit, bon, avec un journal comme ça, les gens vont peut-être plus s'affirmer, puis vont pouvoir plus débattre. Et c'est de même qu'on crée une vie étudiante plus saine.
Parce que justement, quand on voit des dossiers, puis il y en a eu dernièrement, parce qu'il y a eu des dépôts de budget, puis bon, il y a des étudiants qui n'étaient pas très satisfaits des mesures. On associe des fois le mouvement étudiant justement à des mesures contradictoires, puis on pense toujours que les associations étudiantes vont prôner une seule position, mais il y a des gens de droite comme vous qui se retrouvent coincés justement par ces associations-là qui prennent des positions de gauche, et je suis convaincu que ça crée des conflits au sein même de ces institutions-là. Vous avez de la difficulté, j'imagine, à défendre vos points de vue quand surtout on voit que ce qui est mis d'avant, c'est ces mesures-là de gauche.
Oui, tout à fait. Puis également, nous autres, je participe au Campus Club conservateur de McGill, et c'est eux quand même qui attribuent l'argent aux différents Campus Clubs. C'est sûr que nos positions idéologiques sont reflétées dans l'argent qu'on reçoit comparé à d'autres Campus Clubs.
Ah oui, OK.
Ce qui est un peu dommage. Et là, on n'était pas si pire parce que cette année, on avait quand même un conseil étudiant assez modéré. Et malheureusement, aux dernières élections étudiantes, il y a deux semaines, ça a été complètement tous des gens de gauche qui ont été élus, dont le président socialiste McGill qui va être sur le Sénat. Le Sénat qui est l'organisme étudiant qui négocie avec l'administration un peu.
OK.
Fait que c'est dans un contexte... On comprend dans un contexte d'augmentation des frais de scolarité, c'était sûrement la réponse à s'entendre au niveau des étudiants. Mais le problème, c'est que si on parlait justement entre nous qu'il y aurait peut-être une possibilité de grève, ça l'affecte quand même nos sessions scolaires. Puis en tant qu'étudiant, c'est quelque chose qu'on souhaite pas parce qu'on veut terminer justement nos études puis on veut aller sur le marché du travail.
Le plus rapidement,
oui. Exactement.
Mais justement, comment est-ce qu'on vit ce genre de mesure-là, McGill? Parce que McGill est quand même assez reconnu pour avoir, vous avez quand même des frais de scolarité qui sont parfois peu, assez élevés. Si on prend le MBA, il est quand même assez élevé par rapport à d'autres universités publiques francophones. Est-ce que ça fait la même tollée? Vous avez le même tollé à McGill qu'on peut retrouver dans les universités francophones publiques?
Il y a vraiment une concentration. Parce que, oui, les frais de scolarité sont plus élevés dans certains domaines. Puis ça, je pense que c'est plus l'administration qui en est responsable. Mais au niveau des étudiants, je pense qu'il y a beaucoup... Ils sont moins visibles que dans d'autres universités, mais il y a des groupes très extrémistes. On a entre autres un groupe qui s'appelle CUPER, qui est le groupe recherche du Québec en matière des étudiants. Et ces groupes-là ont des positions très extrêmes au niveau de la gauche, et à chaque fois que nous, on fait campagne contre eux, parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que tous les élèves leur donnent $3.75 par session. Puis, il y a une manière de se retirer en faisant une demande par Internet que ton argent n'aille pas à ce groupe-là. Et nous autres, on fait juste dire aux élèves, bon, ben si vous voulez pas que votre argent est là, vous pouvez vous enlever. Et à chaque session, on a des menaces de ce groupe-là disant qu'on n'a pas d'allure à informer les gens là-dessus. Puis, à chaque fois qu'on fait exemple, on met une table avec des affiches pour dire, puis avec des pamphlets à distribuer aux gens. Là, comme la session passée, ils sont venus complètement arracher nos affiches, puis ils ont détruit notre table. Fait que, tu sais, oui, à McGill, le climat est moins de gauche, je dirais, mais les groupes qui sont de gauche le sont beaucoup.
Le sont, ouais, OK.
C'est dans cette manière-là que ça diffère des autres universités.
OK. Parle-nous donc, les trois meilleurs articles de cette semaine dans votre journal, top 3.
Je vais en profiter pour vanter mon article.
Ah oui?
j'ai écrit sur le budget Bachand. Dans le fond, ce que j'ai fait pas mal le tour du budget. J'ai parlé de la dette. Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens que notre service de la dette soit 8 milliards par année, puis qu'on fasse rien pour ça, puis que les dépenses étaient hors de contrôle. Et dans une société, ce qu'il faut comprendre, selon ma perspective, c'est que quand tes taxes sont trop élevées, quand ton impôt est trop élevé, la seule solution, c'est littéralement de couper pour rembourser cette dette-là. Puis moi, ce qui me faisait rire, c'est ça que je l'ai mentionné aussi à Mario Dumont, quand j'ai eu la chance de participer à son émission, ce que je disais, c'est qu'il y a des gens de l'Alliance sociale, comme Régent Parent, qui nous disent faut repousser le déficit zéro, faut investir dans nos services sociaux. Ben, si le 8 milliards qu'on investit, qu'on doit mettre à chaque année dans notre budget, puis qu'on doit payer, c'est de l'argent qu'on doit payer, puis ça, ce 8 milliards-là, on l'investit à la place d'un service social, ben, ce serait plus intéressant. Fait que s'il était un vrai social-démocrate, je me dis, ben, il voudrait peut-être payer la dette pour peu qu'il aille le 8 milliards à payer, puis qu'il puisse mettre de l'argent dans ses services sociaux. Donc, mais moi, ce que j'argumente personnellement dans mon texte, je dis, bon, ben, il faut couper les dépenses. Parce que le gouvernement, ce qui me fait rire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous disent le gouvernement Charest est un gouvernement de droite et néolibéral, alors qu'il a augmenté la taille de l'État en termes de son PIB de 27 à 30,4 % les dépenses par personne au Québec, ça a monté de 9 000 à 11 600. Les subventions de ratio par habitant ont monté de 637 à 741 $. C'est beaucoup d'augmentation qu'un gouvernement supposément néolibéral n'aurait pas fait. Et des dépenses qui ont augmenté de 3,7 % cette année, c'est pas acceptable. Donc, j'argumente tout au long de mon texte qu'on devrait, exemple, couper les subventions aux entreprises parce que ça récompense l'inefficacité. Deuxièmement, je propose qu'on coupe une partie de nos fonctionnaires. Pourquoi? Parce que le premier ministre Charest nous dit que d'ici quelques années, il va remplacer seulement la moitié de ces fonctionnaires-là. Fait que si on les remplace seulement la moitié, ça veut dire qu'il y a une moitié qui fait rien présentement. Ça fera pas plus quelque chose dans quelques années. Fait que je veux dire,
le calcul est bon.
Je me dis, c'est maintenant qu'on a besoin de l'argent. Fait que faisons-le maintenant. Les garderies, ce que je propose, c'est un système complètement libéralisé de garderies. Parce que là, faut comprendre que les familles pauvres, il y a des familles pauvres qui n'ont pas accès à ces garderies-là, autant que les familles riches. Parce qu'il y a des lignes d'attente qui vont de plus de 2 ans. Et ce que je proposais, c'est libéraliser ça, faites des centres de garderie là où ce que la demande est. T'élimines une grosse partie des listes d'attente. Et pour les gens qui sont pas capables de se payer des garderies, disons avec un prix plus élevé, parce que là, c'est sûr que le garderie à 7$, ça n'existerait plus. On offrirait, ce serait beaucoup moins coûteux pour le gouvernement d'offrir aux familles à moindre revenu on appelle ça des bons de garderie, là, de leur donner de l'argent pour qu'ils puissent se payer ça.
Mmh. Ben aussi, il y a des gens, peut-être que le monde ne réalise pas, là, mais que Jean Charest a promis 15 000 nouvelles places en garderie. Ça, c'est à peu près 2 000 nouveaux fonctionnaires. Là. Le monde ne fait pas le calcul, donc c'est 2 000 fois 50 000 par année pendant 35 ans avec leur retraite, plus qu'on ajoute peut-être un autre 15 ans.
Les gens ne voient pas. Oui, non. La mesure coûtait 558 millions de dollars. Donc, c'est 37 200 $ pour chaque place. Ridicule.
Par année.
Je suis sûr que le calcul doit être pire que ça. Ils ne nous le disent pas. C'est juste qu'ils oublient de nous le dire.
Ben, évidemment, un programme gouvernemental, on ne sait jamais les vraies estimations.
Parce qu'à 23 de l'heure, c'est pas mal plus que 37 000 par place.
Oui. On s'entend. Non, c'est... En tout cas. Et j'avais la deuxième partie, je l'ai faite sur deux parties pour alléger la lecture, mais je parle exemple de frais de scolarité que je proposais. Étant donné que les universités ont des dettes, à la moyenne au Québec, ça pourrait être 251,3 millions en 2009, c'est à peu près ça le déficit des collèges et des universités au Québec. Puis ça fait baisser la qualité de nos services en tant qu'étudiant. T'as de moins de professeurs qui sont renommés. T'as ton université à perd de sa qualité, donc tu perds de sa réputation, moins bons équipements, etc. On connaît les conséquences d'une entreprise endettée. Moi, je disais, mais tant qu'à monter les frais de scolarité, on devrait les libéraliser, créer un marché libéral d'université. Puis pour les gens qui ont un moindre revenu, évidemment, on va faire un système de prêts et bourses qui va être proportionnel et faire comme aux États-Unis, une université d'État où ce que les frais sont moindres. Mais donc c'est ça que je proposais. Et bon, évidemment, je donnais l'exemple de la Nouvelle-Écosse, qui est la province avec les deuxième plus grand frais de scolarité, mais qui est la province où ce que le taux de participation est le plus fort. Et l'Ontario, c'est la même chose. Et le Québec, qui est la province avec les frais de scolarité les moindres, sont la troisième province, l'avant-dernière province où ce que le taux de participation est le moins élevé. Donc, c'est pour montrer qu'il n'y a aucune corrélation entre les frais de scolarité et le taux de participation à l'université. Et finalement, je concluais avec les pensions, j'amenais l'idée qu'on devrait peut-être proposer aux gens de ne pas nécessairement investir dans la caisse de dépôt de placement, qui est quand même enregistré un déficit de 40 milliards en 2008, donc à peu près moins 25% de leurs actifs, tandis que d'autres fonds de placement comme Teachers puis le plan d'action, le plan de pension du Canada a perdu 18 puis 18,6% respectivement. Ça montre que il y a quelque chose à la manière comment on fait les choses au Québec qui fonctionnent pas. Et dans les tarifs, ce que je disais, c'est que je suis pas une personne en compte les tarifs, mais j'ai quand même un problème quand nos taxes sont nos impôts en fait sont très élevés et que nos tarifs sont très élevés aussi. C'est un ou l'autre que ça devrait être fait. Tu peux pas avoir les deux. Et évidemment, ça c'est complété par personnellement je prône plus une baisse d'impôts, des tarifs un peu plus élevés et évidemment couper dans nos dépenses publiques. C'est un peu ça que je disais. Je concluais avec que c'était dommage que le gouvernement n'a pas adressé ces problèmes-là de dette et de dépenses et qu'il n'y avait rien au niveau de l'exploitation des ressources de gaz de schiste, de pétrole, d'énergie nucléaire, développement hydroélectrique. Au Québec, on en a des ressources, mais on les utilise pas.
On se prive de revenus énormes.
Exactement, exactement. Donc, c'est un peu ce genre d'article-là qu'on publie dans le Prince Arthur. C'est tout le temps des choses par rapport à l'actualité qui adressent un problème parfois international. Entre autres, Zach Pekin écrit beaucoup sur la situation en Libye présentement. Il s'intéresse beaucoup à la situation au Moyen-Orient. Zach qui est un auditorialiste et qui étudie, lui, à l'université sur les questions du Moyen-Orient. Donc, c'est vraiment un sujet qu'il connaît et qui est capable d'amener une perspective internationale au Prince Arthur. Il y a des gens qui viennent des États-Unis qui écrivent pour notre journal et qui nous parlent de politique américaine. Fait qu'il y a vraiment là, du contenu pour tout le monde sur le site web.
Et tout à l'heure, tu nous parlais du pendant francophone. Est-ce qu'il y a déjà une date de lancement de prévu de votre côté?
Il n'y a pas une date de lancement de prévu, mais je vous dirais que d'ici la semaine prochaine, au courant de la semaine prochaine, il va y avoir des articles francophones qui vont sortir. Bon. Puis à partir de là, un coup qu'on va avoir vraiment, là, on a trois de confirmés d'éditorialistes. On s'en va d'ici la fin du mois, on espère en avoir huit. Au cours de l'été, là, parce que ça va être vraiment au cours de l'été, on se donne un bon 4 mois avant la rentrée scolaire. Pour vraiment améliorer la présentation du Prince Arthur sur Internet. On va vraiment faire une page séparée du Prince Arthur. Il va y avoir un lien sur la page principale pour aller à un Prince Arthur complètement francophone, une page complètement francophone. Pour l'instant, les articles francophones vont être publiés à travers les articles anglophones. Fait que c'est un peu moins intéressant. On comprend la problématique, puis on va s'assurer de régler ça au courant de l'été là avec le financement. D'ailleurs, on s'est présenté, il y a un concours avec le Manning Center. Le Manning Center, qui est un institut au Canada qui promouvoit différentes valeurs de droite, là, autant de progressistes conservateurs jusqu'à libertariens, en passant par le conservatisme social et conservatisme économique. Et on s'est inscrit en concours qui nous permettrait peut-être de gagner 10 000 $ si l'idée est assez intéressante pour eux. C'est un concours littéralement de gens qui vont amener des projets qui vont favoriser qui vont favoriser le débat d'idées au Canada et qui va pouvoir permettre de promouvoir les valeurs de droite. Et nous autres, on a proposé le Prince Arthur. On va aller là au Manning Center qui est c'était la première fin de semaine de mai. Et on va tenter justement de gagner le 10 000 $. Et si on le gagne, la première chose qu'on va faire, ça va être de l'investir dans un nouveau site web professionnel.
Et en terminant, est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse Internet? On va inviter nos auditeurs effectivement à consulter le site.
C'est le www.princearthurherald.com.
Alors, là-dessus, on vous souhaite la meilleure des chances.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à l'émission. C'est très gentil.
Oui, toujours bienvenue. Et on invite les gens, d'ailleurs, à se joindre à votre groupe Facebook, qui est accessible via votre page Internet.
Oui.
Ben, merci.
Sur Facebook, vous allez à l'adresse. On a également un Twitter, ceux qui veulent nous suivre. Et Blogging Tories, comme on voit nos articles au chat chaque semaine. Donc, on est présent sur la blogosphère et sur le réseau Internet.
Ben, bonne chance!
Ben, merci beaucoup. On se reparle.
Oui, okay. Bien sûr. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir. Très intéressant, encore là, de voir des étudiants qui s'impliquent. Tu sais, au Québec, des fois, on dit « Ah, les étudiants! » Puis, écoute... Mmh. On dit journal étudiant, mais on pourrait même dire...
un journal tout court.
Un journal de droite tout court qui vient...
C'est bien fait. Là.
C'est intéressant. Mmh. Puis moi, j'ai longtemps souffert. Je suis sorti des années 90 du système québécois là au niveau de l'éducation. Puis c'était gauche. Mmh. C'était les grosses années aussi de l'indépendance, de la souveraineté. Il n'y avait aucune place à la droite. Puis aujourd'hui, on voit qu'il y a encore des difficultés, par contre. Hein? Je suis surpris d'entendre qu'il y a des extrémistes. Puis on le sait que dans le mouvement québécois, ça brasse beaucoup. Ouais. On a juste à penser aux manifestations étudiantes.
Un petit peu un manque d'arguments. Quand t'es rendu à la violence, à arracher les pancartes.
C'est un peu plate.
C'est vraiment
plate. Tu disais à McGill en plus, il y a quand même... c'est des gens qui suivent des cours à citer. La pire université au Québec, là. Donc, très intéressant.
Ouais. Puis ça répond à l'objectif du départ de nous autres il y a 2 ans, occuper l'espace média. On veut que la liberté, la responsabilité individuelle, les valeurs plus conservatrices aident l'espace qui n'en avait pas. Puis voyez-vous, nous, on a commencé 4 février, eux en mi-janvier, de j'avais vu. Donc, on commence, ça commence à continuer.
Puis si on peut commencer par les étudiants. Écoute, c'est les futurs décideurs de demain, les futurs politiciens de demain.
Ouais, juste raconter une histoire. Hier, je donne un cours et j'ai décidé que je jasais avec mes étudiants, que je donnais pas un cours dans l'après-midi. J'ai passé une vidéo du ministère de l'Agriculture qui fait une campagne présentement, qui a débuté cette semaine, sur l'achat local. Donc, je leur ai fait jouer le vidéo et je les ai fait parler. Êtes-vous pour ou contre? Et puis, j'ai eu un maudit beau débat avec les gens sans vouloir les influencer. Et il y avait des gens qui disent, moi, je suis pas prêt à payer plus cher pour acheter québécois. Puis l'autre, ben oui, il faut le faire. Puis là, tu avais des différentes personnes qui intervenaient. Okay. La classe n'a jamais été aussi vivante. Là, je leur expliquais les pour, les contre aussi. Puis je leur disais, Master, faites-vous une opinion. Vous voyez les deux côtés, les trois côtés même de la médaille. Donc, c'est intéressant. Les jeunes ont des opinions. Donc, quand tu donnes un cours magistral tout le temps, là, ben, tu sais pas ce que le monde
pense. Non, c'est ça.
Là, j'ai dit non, je passe la vidéo, puis on a jasé à peu près 35 minutes sur le sujet.
Parce que bien beau, des fois, s'en tenir au contenu pédagogique, puis vouloir pousser un programme, mais il faut laisser aussi... puis les tribunes, ils se font de plus en plus rares. Aujourd'hui, on est dans le monde numérique. Oui, les gens ont accès à des médias sociaux, ils peuvent se regrouper, mais laisser de la place comme ça dans un cours, dans un endroit aussi sain qu'un milieu scolaire, puis j'imagine que la façon dont tu le fais, c'est dans le respect, puis c'est justement en laissant la place aux gens qu'on peut leur permettre aussi de discuter dans le respect.
Oui, puis c'était de lever la main, de les autres écouter ce que l'étudiant va dire, et je vous dire, là, sérieusement, ça m'a été inspiré par Rénal Duberger.
Ben
que je lis souvent ses textes qu'il fait dans les écoles. Là, je leur avais donné un examen le matin, jeudi matin, puis j'avais un cours d'après-midi avec les mêmes étudiants. J'ai dit, je vais lui faire prendre ça relax. Ils ont travaillé fort un matin.
Oui, parce que j'ai cru comprendre que ton examen était difficile.
Ils ont trouvé ça difficile. Mais je suis pas d'accord avec eux, mais je changerai pas mon opinion. Puis il va falloir qu'ils s'habituent. L'examen final va ressembler à la même affaire. Mais c'est ça. Donc, ils en ont des opinions. C'est juste que c'était le même problème qu'avec notre type d'émission. Ça n'existait pas. Hein? Il faut aller la chercher, l'espace. Si, il n'y a pas personne qui va nous la donner, l'espace. Il faut aller l'occuper. Donc, nous, on l'occupe ici. On en parlait l'autre fois. Moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas beaucoup de gens de gauche qui viennent ici. Ça ne me dérange pas du tout. Parce que 90% des médias le couvrent, la gauche. Donc, on peut-tu avoir un petit havre de paix de droite?
Oui, c'est ça.
Parler de sujet. Moi, j'ai absolument rien contre ça.
Oui, tout à fait. Puis,
c'est une belle initiative.
C'est une belle découverte. Puis, en plus, comme tu dis, tu l'as découvert à travers. Puis on le dit jamais assez. Je le sais que les gens vont dire, là, je suis tanné, là, les histoires de Facebook puis de Twitter. Non, mais sélectionnez premièrement vos comptes Twitter, là, puis, tu sais, trop, c'est comme pas assez non plus. Donc, sélectionnez les médias qui vous intéressent, flushez ceux qui vous intéressent le moins.
Faites comme moi. Moi, je vous le dis, là, j'en ai pas de médias mainstream dans mes abonnements Twitter.
Non.
J'en ai pas besoin. J'ai juste à ouvrir leur page web et je vais l'avoir.
On est inondé de toute façon de ces médias-là.
Moi, je vais chercher du monde qui sont pas mainstream, qui peuvent m'apporter quelque chose, soit pour m'informer ou soit par rapport à mon entreprise. Et, il y en a qui sont très, très fun à suivre sur Twitter. Là.
Oui.
Ils envoient, comme on en parlait l'autre fois avec Guy Bolduc, le top 10 des meilleures pratiques pour ouvrir votre entreprise, top ci, top ça.
Je te dirais que, puis je le faisais le test, je rouvre une petite parenthèse là, qui est personnelle, mais j'habite maintenant temporairement, écoute, je suis retourné habiter avec mon père, et écoute, c'est pas parce que je suis loser, c'est des contraintes qui amènent temporairement, et mon père est bien installé, j'ai mon bachelor, je suis là avec ma conjointe, donc tout va bien, mais c'est quelqu'un qui est un grand consommateur, des médias traditionnels, donc la télé, il est branché sur la télé, mais quand même, il consulte ce qu'il peut consulter. Dans un, mon père est pas bilingue, il est une langue francophone, donc il se promène en TLCN, RDI, TVA, Radio-Canada. Puis moi, avec mon Twitter à côté, je me rends compte que il est pas alimenté au même niveau que moi je le suis par rapport à une nouvelle, tu sais. Puis on voit les choses qui sortent. Puis juste à titre d'information, tout à l'heure je regardais, puis moi je suis abonné au Twitter d'influence communication.
Okay.
Puis tu sais, on voit que ça bouge, tu sais, côté nouvelles, puis priorité aussi le top 10 des nouvelles. Puis tu te rends compte facilement, rapidement avec ces médias sociaux-là que où se dirigent les tendances, quels sont les discours justement qui sont discordants un petit peu plus, les discours alternatifs, chose qu'on n'a pas sur les médias traditionnels qui focus là sur un spin monstrueux, puis on nous tape toujours la même chose. Donc, si vous voulez simplement goûter à autre chose, tu sais, comme on le fait en cuisine, là, ça fait pas mal en plus, là. Vous tomberez pas malade de ça. Donc, allez expérimenter ça. Puis, des fois, c'est les retweets, comme on dit dans le jargon de tweet, qui vont vous amener sur d'autres pistes. Donc, juste le fait de se présenter sur ces médias sociaux-là. Et grâce, moi, à Twitter, je redécouvre justement l'avantage là de ces médias sociaux-là. Tandis qu'un Facebook, c'est plus un, tu sais, je veux pas dire une patente à gosse, mais ça a des bons côtés.
C'est plus personnel.
C'est plus personnel, c'est autre chose, c'est plus voyeuriste. Tandis que les tweets, on concentre ça dans un peu de caractère, puis on va à l'essentiel, et puis, je vous le dis, de toute façon, aujourd'hui, avec les téléphones cellulaires, la mobilité qui est très facile, abonnez-vous à ces choses-là. Tentez l'expérience. Ne basez-vous pas nécessairement toujours sur les expériences des autres, mais soyez conscient de l'opportunité qui vous est donnée à même là votre petit téléphone ou votre ordinateur dans votre confort. Et puis ça, c'est très important parce que en tant que citoyen, en tant que personne qui sont présents dans un système capitaliste ou dans un système politique, on doit s'informer. C'est notre devoir. Je le sais qu'aujourd'hui, on se dit, écoute, on est surinformé des fois. Non, on n'est pas surinformé parce qu'on n'a pas toute cette palette-là. Donc, c'est votre devoir, je vous le dis. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place.
Responsabilité individuelle.
Ça commence
d'aller la chercher vous-même, c'est ça?
Oui.
Twitter vous l'amène. Vous, votre responsabilité d'aller chercher les bons comptes Twitter à suivre, c'est juste ça.
Ben oui.
Puis moi, peut-être une suggestion. Moi, c'est pas ça que je fais parce que je veux pas les suivre, les mainstream. Mais si vous y tenez, là, créez une liste à part pour vos mainstream. Puis gardez-vous votre Twitter normal. Là. Gardez-le pour des gens comme Marc-Olivier, des gens comme Roy Epen, des choses comme ça. Aller chercher des blogs, aller chercher quelque chose de différent. Moi, sérieusement, le mainstream sur Twitter m'intéresse pas.
Oh oui.
M'intéresse pas.
Puis ça passe par le devoir de s'informer quand on veut prendre les bonnes décisions et se faire une opinion, comme tu dis que tu as fait tes étudiants. Hey, on arrête ça immédiatement. On va faire une pause parce que on approche la fin de l'émission. Il va rester un bon 20 minutes. Et là, je veux qu'on commence par ta chronique.
Oui,
il faut absolument la faire. Et on a un extrait d'ailleurs, là, le cri du contribuable. Il faudrait la passer cette semaine. Mm-hmm. Je te mets au défi qu'on... Il faut commencer par ça. Okay. Donc, il reste à peine 20 minutes. On va faire une petite pause. On se retrouve de l'autre côté. Évidemment, vous êtes sur les ondes du XM160. Et du radiochoc.fm pour ceux qui nous écoutent sur Internet. On salue les gens qui nous écoutent sur Internet et on salue en passant tous les abonnés à la radio satellite et on espère que vous aimez notre produit. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour la suite des choses.
on est de retour sur les ondes de XM 172 avec l'émission Connaître la suite. Alors, pour terminer l'émission, nouvelle chronique, notre ami Danny qui est plein de créativité.
Oui, et ça donne bien parce que c'est en plein dans le sujet qu'on a parlé juste avant d'aller à la pause.
Ah
donc,
oui?
Donc, ce que je fais, c'est que je veux rendre un hommage particulier à Twitter qui m'amène vers d'autres sources d'informations que Cyberpresse et tout ça. Donc, j'ai décidé de créer la nouvelle chronique qui est la Tweet Chronique, la Tweet Chronique. Donc, pars-moi ça.
Ah, t'as un message sur Twitter.
Oh mon Dieu! Oh my God!
Écoute, ça a pas lâché, là. Mais Paul, t'es pas député. Tu sais, je me demande comment mon ami Denis Coderre a le temps d'être député.
Envoyez-lui un tweet.
Avouez que on comprend pourquoi que les gens sont cyniques.
Tweet chronique. Voilà. Ah, la tweet chronique. Hein, je mets des tunes joyeuses.
Ben oui.
Je sors de là, ça me tente de... Je perds ma mauvaise humeur. Je suis full de bonne humeur.
Et là, faut dire aux auditeurs, j'ai aucune espèce d'idée là, de qu'est-ce que la tweet chronique.
Ouais, mais juste compter une petite anecdote, là, c'est que cette tune-là, j'avais dans mes shows personnels que je faisais sur Internet, je cherchais cette tune-là. Je la chantais à du monde pour dire c'est quoi cette tune-là. Je la trouvais pas nulle part, je savais pas le titre. Et ça m'a pris, c'était en mai l'an passé que je la cherchais. Depuis le mai, l'année passée, je la cherchais, je l'ai trouvée. Dans la nuit de vendredi à samedi passé. Donc,
il y a bien juste toi.
Et c'est les Jackson 5. La toune, c'est Rockin' Robin. Et c'est une reprise d'un groupe des années 50.
Ah oh.
Voilà. Donc, ça dit tweet, tweet, tweet chronique. Ben, c'est ça. Ben, je veux rendre hommage à Twitter qui me fait connaître des sites qu'on connaît moins. Puis tout ça. Je trouve ça bien. Puis, donc, quand mes chroniques vont être surtout axées sur ce que j'ai trouvé sur Twitter, ben, ça va être là-dessus. Donc, cette semaine, je voulais revenir sur. Le sujet sur lequel on s'est laissé dans les dernières secondes du show du 11 mars,
oui.
C'était les fonctions régaliennes.
Oui.
Donc, on disait les fonctions régaliennes, je vais juste le rechercher, là, parce que je l'avais sorti. Puis là, il
parce que ça avait été apprécié, ça, par un auditeur qui, justement, sur Twitter, avait manifesté. Et ça, on vous le dira jamais assez, cher auditeur, mais c'est une façon aussi de nous rejoindre, le tweet, parce que vous pouvez... puis pour nous, c'est le meilleur outil parce que vous pouvez promouvoir en plus à tous vos abonnés un peu vos réflexions par rapport à notre émission. Et sachez qu'on les prend en note, on en tient compte et c'est sûr qu'on a un intérêt particulier, comme on a dit, et je veux pas ouvrir une très grande parenthèse, mais on n'est pas en rodage, mais on peut parfaire les choses, puis on peut voir ce que vous aimez et surtout ce que vous appréciez, on va revenir à la charge, soyez-en sûrs.
Exact. Donc, on n'a pas peur, nous, de s'améliorer.
Oui, c'est ça.
OK, juste revenir là-dessus, on disait les quatre missions régaliennes traditionnelles. Donc, régalien, j'expliquais que c'était tout ce qui signifie ce qui est attaché à la souveraineté d'un peuple. Donc, les fonctions régaliennes qui regroupent les attributions propres au pouvoir souverain. Donc, quels devraient être les rôles de l'État? Donc, les fonctions régaliennes de base, là, qu'est-ce qui devrait... Dans le fond, là, on aurait un monde complètement différent au Québec et au Canada si on se contentait que de laisser au gouvernement dire « Occupez-vous des fonctions régaliennes, puis laissez-nous nos libertés individuelles et… »
De choix.
Exact, de ça. Donc, je vous rappelle les quatre. Premièrement, c'était « Assurer la sécurité extérieure par la diplomatie et la défense du territoire. »
Oui.
Dans le fond, tout ça. « Assurer la sécurité intérieure, donc à même le pays. » Et le maintien de l'ordre public, notamment avec des forces de police. La troisième, c'était définir le droit et rendre la justice. Donc, avoir des cours de justice, des avocats, des juges. Et la quatrième, qui on dit définir une monnaie qui est propre au pays. Donc, ça peut être contesté, contestable. Donc, selon certaines philosophies, il y en a qui disent qu'ils ne devraient pas avoir ça. Il y en a qui prôneraient une monnaie privée.
Ah oui!
Es-tu capable d'imaginer? Moi, j'essaie d'imaginer comment qu'une monnaie privée pourrait exister. Je comprends pas.
La seule qui me vient en tête, c'est l'argent canadien Tire.
Canadian Tire? Ouais. Ah, j'avais pas pensé à ça.
C'est de l'argent privé, mais c'est une forme de récompense aussi.
Ça marche.
Ben, il y a déjà été une époque où tu pouvais la passer dans divers établissements. Je me souviens.
Il s'est chicané quasiment pour les avoir.
Tu pouvais aller chez Rona avec ton argent Canadian Tower.
Hey, c'était baveux.
Nous acceptons l'argent Canadian Tower. Il y a juste dans les épiceries, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. Ou peut-être ça s'est fait ailleurs dans la province là, ou dans le Canada. Mais
exact.
Effectivement, ça peut être difficilement concevable.
C'est un peu spécial. Mais écoute, il faudrait peut-être que si quelqu'un a un article, il pourrait nous dire comment ça pourrait marcher une monnaie privée, un libertarien ou quelque chose.
J'entends
là.
Déjà des gens nous dire que la Banque du Canada, si on prend l'exemple au Canada, c'est pas nécessairement public, ça appartient à des intérêts privés, la monnaie est contrôlée par la banque. Tu sais, il faut faire attention, ça se pourrait. Ça se pourrait.
En tout cas, s'il y en a qui ont des sources là-dessus, info@connaitrelasuite.com, on serait intéressé parce que. Mais j'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être. Je sais pas. Aussi, j'avais déjà lu à un moment donné, puis c'est très très loin. Qu'est-ce que ça aurait l'air si 100% de nos routes étaient privées?
Sûrement mieux.
Je sais pas.
Je sais pas, là, mais je dis ça comme ça.
essayons d'imaginer, là, le financement n'est pas là. Mettons, le pont Champlain, il est 100% privé.
Ah.
Est-ce qu'on attendrait... Premièrement, est-ce qu'on aurait construit un pont qu'après juste 60 ans, il est déjà plus bon?
Ben, c'est ça. Puis je pense qu'on aurait fait de l'entretien préventif où on aurait sûrement revalidé un peu la stratégie.
Je pense que le privé aurait peut-être pas enduré ça. Moi, je comprends pas que Turco est déjà scrap. Ça a été bâti fin 50, début 60.
C'est ça qui est surprenant.
Moi, c'est ça je comprends pas.
Il y a personne au Québec qui questionne nos infrastructures. Ça date pas quand même du début du siècle. Là, on parle des années 60, 70 dans bien des cas. Là.
Imagine-toi quand le métropolitain va être fini.
Ouf.
Imagine-tu la ville de Montréal?
Paralysée.
Ça n'a aucun sens. Donc, comment ça que ça n'a pas été construit de la bonne manière? Et si ça avait été construit par le privé, géré, financé et que les revenus étaient allés au privé, qu'est-ce qui serait arrivé? Je ne dis pas que je prône ça, j'essaie d'imaginer de quoi ça aurait l'air.
On essaie de comprendre.
On essaie de comprendre, d'imaginer, de se mettre dans la peau de ça pour voir. Puis, c'est un peu ça. Et ce que j'ai dans le fond, tout ce que je voulais vous faire comprendre la semaine passée, c'est de voir, on peut-tu regarder, partir de la base des fonctions régaliennes, les quatre, regarder ce qu'on est devenu aujourd'hui et se dire, il y a sûrement un espace entre les deux qu'on pourrait occuper. On est tellement loin dans l'interventionnisme d'État par rapport aux quatre fonctions régaliennes. Y aurait-tu moyen de se rapprocher un petit peu plus? Là, je ne fais pas les bons signes, ce serait plus, mettons, régalien serait du côté droit. Y a-tu moyen d'essayer de sauter de certains... de l'économie ou de la vie des gens qu'on n'a pas d'affaires, que le gouvernement n'a pas d'affaires, ça fait réfléchir de savoir que les quatre domaines devraient n'être
moi,
que ça.
J'aime le thème parce que là, on n'est plus gauche-droite, là, on parle de régalien. Tu sais, c'est le fun, me semble, tu déstabilises quelqu'un, tu dis, j'ai des principes, et c'est ça, tu sais.
Je suis pas de droite, moi, je suis régalien.
C'est ça, tu sais, c'est un... Oups, la personne n'a pas le choix de s'intéresser, là, parce qu'à moins qu'elle soit très connaissante là, dans le domaine là, de ce que tu nous mentionnes. Mais
c'est un thème qui n'existe pas ici. Puis, tu sais, lors du RLQ du 23 octobre dernier, on se disait, on cherche un nouveau nom pour la droite.
Oui.
Donc, est-ce que régalien serait trop extrémiste, parce que c'est vraiment à revenir aux quatre bases principal, peut-être un petit peu, je sais pas. Moi, des fois, tu sais comment j'aime jouer avec les mots et d'inventer des nouveaux. Des fois, je me disais, au Québec, là, on devrait s'appeler les réingénieurs. On voulait une réingénierie de l'État.
Je comprends, là.
Donc, ça serait un R-E-I-N-G qu'on marquerait à la fin de notre nom, au lieu de ING.
Mais sais-tu, on peut garder la question sur les régaliens pour la semaine prochaine, parce qu'on va déjà annoncer à nos auditeurs qu'on va avoir Fred Têtu avec nous la semaine prochaine. Puis j'imagine qu'il y a déjà peut-être...
Pensez à ça, c'est un philosophe.
Regardez ça, peut-être.
Avec un scotch, ça, vendredi soir.
Je ne sais pas, le scotch, mais je lui ai promis une bouteille de vin rouge.
Ouais, j'ai vu ça. T'es fait.
On va commencer par ça. On verra s'il faut apporter le scotch, on apportera le scotch. Non, mais effectivement, parce que, comme tu dis, des fois, il faut redynamiser un peu le discours, puis surtout l'approche gauche-droite, puis, tu sais, c'est pas qu'on commence à être allergique au terme, mais on est allergique à tous ceux qui veulent ostraciser, on peut dire ça.
Ostraciser.
J'ai la misère avec ce mot-là.
On se reprend l'un et l'autre, c'est parfait.
C'est ça, par rapport à la droite, parce qu'on sent qu'on nous peinture dans le coin aussitôt que... Puis même nous, quand on fait la recherche d'entrevue, tout ça, d'entretien, tu sais, on veut pas laisser c'est pas qu'on veut pas déplaire, mais c'est parce que on ne sait jamais le référentiel des gens. Je pense que ça pourrait être intéressant de créer des nouveaux termes comme ça par rapport à des tendances, des philosophies un peu de vie, en fin de compte. Là,
Okay. Non, c'est intéressant.
OK, c'est un peu ça. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir à jusqu'où là, il y a deux mondes, le monde là, de Québec actuel, les fonctions égaliennes, on devrait se situer où là-dedans?
Ouais.
Réfléchissez à ça. Je m'excuse si vous ne dormez pas cette nuit parce que vous êtes en train de réfléchir à ce que j'ai lancé comme débat, mais quand même, c'est un peu spécial. Aussi, qu'est-ce qu'on peut dire là-dedans? Attends un petit peu que je retrouve mon affaire. Dernièrement, il y a Nicolas Sarkozy en France qui a fait un discours où est-ce qu'il a parlé justement des fonctions régaliennes. Donc, il y a des hommes d'État qui en parlent. Donc, il a dit, et j'aime sa remarque, il a dit, il a fait remarquer qu'avec les nouveaux ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Affaires étrangères, les pouvoirs régaliens en France sont entre bonnes mains.
Ah oui.
Tu sais, fait qu'il disait, moi j'ai construit une équipe forte là, du côté régalien de notre gouvernement. Et on lui considère qu'ils sont entre bonnes mains en ayant nommé ces ministres-là.
Ah, donc, OK.
C'est peut-être un terme plus utilisé en Europe. Si jamais on reçoit des francophones européens, peut-être qu'on pourra voir ça. Et ce que j'aimerais aussi faire, c'est vous montrer, faire jouer un petit extrait, justement, d'une personne qui en parle de ce sujet-là. Donc, on peut partir sur ça.
On met ça à l'instant.
Une Française.
Je dis tout simplement que c'est vrai que l'État se concentre plus assez sur ses fonctions régaliennes, ses fonctions qui sont de protéger les citoyens. Et notamment tous les autres États des grandes démocraties qui nous entourent se concentrent beaucoup plus là-dessus, protègent beaucoup plus effectivement leurs policiers, les militaires, et ceux qui rendent la justice, etc. Et ne protègent pas, comme nous, presque 7 millions de personnes. Ils en protègent 500 ou 700 000 qu'on appelle des fonctionnaires de souveraineté nationale, et cela, eh ben, je remets absolument pas en question leur statut, je l'écris noir sur blanc, et je dis que cela, c'est ceux qui permettent ensuite qu'on...
Les fonctions régaliennes, simplement, c'est quoi pour vous? C'est le policier, le militaire,
police,
santé,
justice,
le magistrat?
Non, pas santé, police, justice et défense.
Éducation?
Non, ni santé, ni, donc, santé, ni
donc,
éducation.
Pour qu'on comprenne bien, c'est que, par exemple, l'infirmière doit perdre son statut de fonctionnaire, ainsi que le prof.
Je pose la question, en quoi le statut... d'emploi à vie de l'infirmière qui travaille dans un hôpital public lui permet de rendre un meilleur soin aux patients par rapport à l'infirmière qui travaille dans une clinique privée. Je n'ai pas encore la réponse. Et j'ai interrogé une infirmière qui me parlait justement à la radio cette semaine là-dessus, et elle m'a répondu plutôt autour des vacances et des jours de congé maladie. Et moi, je pose la question. Pourquoi à l'APHP, c'est un rapport de la Chambre régionale des comptes de l'année dernière, pourquoi à l'assistance publique hôpitaux de Paris, on a 27 jours en moyenne d'absence pour maladie par an. C'est un taux jamais égalé nulle part ailleurs.
C'est plus facile.
On voit qu'effectivement... Ah, écoute, je pense
ça
que
fait,
là...
Ça.
Oh, oui, là, on a...
Donc, la différence entre être une infirmière d'État et une infirmière privée, c'est les conditions de travail. Il n'y a aucune réponse sur le soin aux patients.
Oui, oui. Puis, effectivement, des fois, on cherche comment adresser cette problématique, tu l'as dit, par rapport à cette emprise du gouvernement dans toutes les sphères de la vie, qui viennent, en fin de compte, brimer nos libertés de choix, nos libertés d'expression, la liberté à la propriété. Et je pense que si on attaque ça sur des fondements comme ça, qui sont une philosophie, regarde, on parle pas d'axe politique, là. On parle de fondements liés à une philosophie de vie.
C'est une philosophie, tout simplement.
Donc, je pense que on pourrait choisir justement de déléguer certains pouvoirs, justement. Est-ce que c'est régalien? Est-ce qu'il faudrait un autre terme? Est-ce qu'il faudrait en ajouter un ou deux? Ça date de où? Ça date de quand? Je veux dire, c'est quoi les références? Je sais pas. Écoute, tu m'as pris par surprise la dernière fois. Tu me prends encore par surprise ce soir. Là,
bang!
Mais il y a sûrement des gens qui se sont intéressés à la question au Québec. On va devoir...
Faut trouver.
Sur Twitter.
C'est ça, mais vraiment, je vous dis, il faut réfléchir à ça. Chacun individuellement, là, ceux qui écoutent le show parce que vous avez les mêmes valeurs que nous, il faut y réfléchir. Pourquoi? C'est quoi l'avantage? Est-ce que les avantages vont compenser les inconvénients? Tu sais, la balance des inconvénients, tu sais. C'est une maudite bonne question. En quoi d'avoir des infirmières d'État, ça a fait... que les gens sont mieux soignés. Donc là, il va y avoir...
Garderie, État, réseau routier, garde.
Sur tous les sujets, on devrait se poser cette question-là.
Oui.
Et vraiment, de façon en profondeur, plus que qu'est-ce que le parti le plus droite au Canada ou au Québec, plus que ce que l'ADQ a pu faire comme réflexion.
C'est plus qu'une réingénierie, là. C'est une... C'est, c'est, c'est une
c'est une refonte, c'est de se repenser.
Ouais.
En tant que société, en tant qu'État.
Puis une fois que ces réflexions-là sont faites, il faut les publiciser, les rendre publiques, éduquer les gens. Comme j'ai fait dans mon cours cette semaine, je leur ai pas dit que je compte les... Je voulais pas en arriver faire croire à mes étudiants que je compte les quotas de lait. Je leur ai fait réaliser que, dans le fond, là, dans le cours, je suis parti de l'achat local de fruits et légumes. Et là, je leur ai dit, il y a une politique d'achat local qui existe puis qui est forcée au Québec, qui s'appelle les quotas de lait. Et là, je leur ai fait réaliser qu'on payait à peu près sur 5 $ qu'on paye ici au Québec, ils devraient payer à peu près 3 $ pour le même contenant de lait aux États-Unis. Donc, êtes-vous prêt à payer un aliment de base 2 $ de plus pour le même produit? Là, c'est pas 2 $ sur 50 $, c'est 2 $ sur 3 versus 3 $,
ouais, mettons.
Donc, sur 5 $, 2 $ de plus ou 3 $ de plus. Êtes-vous prêt? Et là, le débat a changé de bord.
Ben oui.
Là, les gars qui étaient plus tranquilles dans la classe sont mis à dire, moi, c'est vrai, là. T'sais? Donc là, je veux pas rire des ados, là. Ils ont quand même 17, 18. Non, mais quand même, donc, c'est pas en se cachant, puis en refusant d'avoir ces réflexions-là, qu'on va se poser la question sur qu'est-ce que devrait être l'État québécois. Le modèle, ceux que j'appelle les modélistes, donc qui trippent sur le modèle québécois, qui veulent en changer aucune virgule, est-ce qu'ils prennent le temps de réfléchir à ça? C'est-tu un réflexe de dire « faut pas toucher au modèle québécois » ou ils ont vraiment fait la réflexion
qui les amenait
à dire « moi, j'ai regardé ça point par point et j'en suis venu à accepter que le modèle québécois, c'est ça que je veux, même s'il y a ça. Ça, je veux pas aller plus loin que ça parce que ça va être une de mes futures chroniques. » Mais est-ce que tout le monde a vraiment pris le temps de décortiquer ce qu'on a comme État au Québec et en venir à une conclusion de dire « moi, je suis plus à gauche ici, je suis plus à droite là », puis vraiment prendre chaque palier gouvernemental et les analyser. Donc, je vous invite, faites des recherches sur Régalien, sur Google, amusez-vous à lire ce que vous trouvez et posez-vous la question « est-ce qu'on est beaucoup trop interventionniste au Québec? » Moi, la réponse est déjà oui, là. Mais posez-vous la question, mais décortiquez le gouvernement en plusieurs parties, puis posez-vous la question.
Hey, c'est la fin de ta chronique, c'est la fin de l'émission.
Ben oui.
La semaine prochaine, revenez-nous. Fred Têtu, on va continuer notre réflexion par rapport à la droite avec lui, puis on va l'aborder de façon différente.
Ouais. Le show est pas mal tout booké.
Oui.
On n'a pas juste Fred
Têtu. On a Joanne aussi.
Ben ouais,
donc, le making
of. Joanne Marcotte.
Oui, Joanne Marcotte pour le making of de l'illusion tranquille. Donc, il est toujours intéressant de recevoir Joanne avec son copain Denis, qui vont être ici ensemble les deux. C'est donc, émission très chargée. Soyez des nôtres la semaine prochaine.
Ouais.
Là-dessus, on te laisse sur le thème de fin de ta chronique.
Ah ouais, yeah.
Et on quitte aussi pour la semaine prochaine. Donc, bonne semaine tout le monde. Et on espère vous retrouver en forme sur les ondes de XM 172 pour l'émission Connaître la suite.
Bye bye.